Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieu.
Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'Intégral Sport, comme tous vos samedis après-midi, dimanche après-midi et même le soir, ça va jusque tard la nuit, pour ne rien rater de tous les événements sportifs, de tous les directs qui vont agrémenter notre week-end. Ça va commencer dans un instant, nous allons partir vers le blanc, vers les montagnes, avec une bonne nouvelle pour l'équipe de France de biathlon. Vous l'avez vécu tout à l'heure en direct, la médaille d'or pour le relais masculin au championnat du monde qui se déroule à Oberhof. On sera avec Julien Richard dans un instant. Il n'y aura pas de médaille d'or pour les slalomeuses françaises, mais peut-être une nouvelle médaille pour une certaine Michaela Schifrin, la reine des neiges américaine, qui va peut-être décrocher une nouvelle médaille en slalom dans quelques instants, elle qui s'est déjà imposée en géant il y a 48 heures. Et puis cet après-midi il y aura également du foot, avec à partir de 15h un match de Ligue 2 qui va opposer Bordeaux au Paris Football Club, et puis à 17h le choc entre Nice et Reims. On n'oublie pas non plus le rugby, et non, il n'y a pas de doublon ce week-end. L'équipe de France est au repos avant d'affronter l'Écosse la semaine prochaine, et les joueurs du top 14 sont au boulot. On suivra la première rencontre qui débutera à 15h et qui opposera l'Aviron Bayonnais au Stade Français à Jean Daugé. L'ambiance va être torride, on sera avec Paul Lafitte pour en parler. Voilà donc pour le sommaire de ce début d'Intégral Sport, et tout de suite nous partons pour la neige. La neige et les pentes de Méribel pour les dernières minutes du slalom féminin qui se déroule actuellement. Bon, je vous le disais, il n'y aura pas de médaille française aujourd'hui. Les Françaises sont loin. Ça fait un moment qu'elles sont à la ramasse. Malheureusement, nos slalomeuses, on n'est plus à l'époque des Christelle Pascal, des Laure Pequeno. Non, tout ça, c'est du passé. Il n'y aura pas de médaille. Il y aura peut-être un top 10. On ne sait jamais. On va demander à Arnaud Souk et Sébastien Amier qui sont avec nous pour nous faire vivre cette épreuve toujours sous le beau soleil des Trois Vallées. Mais vous avez eu un bol, vous devez avoir des marques de bronzage incroyables, messieurs. Vous allez être beau avec vos marques de
bronzage. On met de la crème, évidemment. Salut Christophe, salut à toutes et à tous. Oui, alors c'est un bol incroyable, c'est vrai, pour les organisateurs. Par contre, c'est pas un bol pour la station, parce que malheureusement, s'il y avait eu un gros coup de froid la semaine dernière, là, ça s'est quand même nettement réchauffé ces derniers jours, et la neige commence à se faire rare. Et pourtant, on est à peine à mi-février, donc ça, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle, d'autant qu'il n'y a pas de chute attendue dans les prochains jours. Bref, ça, c'était pour le petit point météo, mais qui était quand même d'importance. Quant aux Françaises, effectivement, pour l'instant, Nastasia Noëns, la meilleure d'entre elles, se classe 9e. Marie Lamure, c'est la nouvelle génération du slalom français, va signer son meilleur résultat en carrière chez les grandes, Coupe du Monde et Championnat du Monde compris, puisqu'elle prend pour l'instant une 10e place. Elle sera au pire 18e. Et puis Chiara Pogno, également une jeune pousse de cette équipe de France, qui elle pour l'instant est 19e temps provisoire. Oui, certes, on n'est plus au temps de la grande splendeur du slalom féminin français, Bastoun, mais quand même, avec ces deux-là, et particulièrement avec Marie Lamure, on a le sentiment qu'on tient peut-être. On tient peut-être la relève du slalom français.
Oui, non, les deux filles là, ont joué aujourd'hui. Elles ont prouvé qu'elles étaient capables de skier à ce niveau-là, à ce niveau des championnats du monde, avec les meilleurs du monde. Elles n'ont pas à rougir du ski qu'elles ont fait aujourd'hui. Alors forcément, ce sera peut-être pour certaines un top 15, pour certaines limites, mais c'est l'avenir du ski français qui se dessine aujourd'hui.
Avec avec Nastasia, l'avenir.
Ça, pour le coup, c'est ça.
C'est ce que j'allais dire. Avec Nastasia, elle va peut-être tirer sa révérence cet après-midi, d'ailleurs. Ouais. Ce sera peut-être une surprise, puisqu'on sait que c'est sa dernière saison.
Ce qui n'est pas une surprise, c'est qu'elle va arrêter la fin de l'hiver. Voilà, ça serait pas une surprise de l'avoir arrêté trois courses avant la fin de l'hiver.
Elle est remontée 8 places pour l'instant, elle a fait son ski. On savait très bien qu'avant cette course, ça allait être compliqué. On savait très bien que depuis le début du championnat du monde, on rêvait d'une médaille avec Tessa Worley. Elle l'a frisée, et malheureusement, le ski féminin repartira sans médaille, mais ça se construit derrière. Il faut être patient, et la patience, la Fédération française de ski en a.
Oui, il a intérêt, parce que ça fait un moment que nos Françaises n'ont plus brillé, mis à part Tessa Worley. Mais au moment où Tessa Worley, Pinturo et Claré vont prendre leur retraite,
ça se construit,
mais pour l'instant, les résultats, on les a avec les vieux, c'est ça que je veux dire.
Oui,
les jeunes ne sont pas au niveau.
Attention, ne met pas Alexis Pinturo dans les vieux, quand même. Alexis Pinturo, il est vieux, mais il n'a pas encore 32 ans, il a encore quelques belles années devant lui.
Clément Noël a 25 ans, et d'autres arrivent derrière. Donc on a eu un passage à vide, comme on l'explique depuis maintenant de nombreuses années. On a connu des trous de génération, c'est en train de se reconstruire petit à petit. Passer de la Coupe d'Europe à la Coupe du Monde, c'est aussi un apprentissage. L'apprentissage des pistes, on le répète, c'est même en slalom, l'apprentissage des pistes se fait. Donc il faudra à ses filles, à elle maintenant de skier avec en sachant que techniquement elles ont les capacités de le faire. On le voit encore aujourd'hui, elles sont capables de jouer avec les meilleurs du monde sur une manche. Maintenant, il faudra le faire sur deux manches et sur toute la saison.
Voilà, pour espérer glaner des médailles, les filles qui vont donc les filles de l'équipe de France qui vont donc quitter ces mondiaux. Fanny, à la différence d'une certaine Michaela Schifrin, qu'on va suivre évidemment dans quelques minutes, messieurs, elle est à la recherche d'une deuxième médaille d'or. On était inquiets en début de championnat du monde lorsqu'elle a raté la médaille lors du premier jour où qu'elle n'a terminé que deuxième, je crois.
Elle a carrément abandonné hein, ensuite elle fait effectivement l'argent sur le super G.
Donc elle est montée en pression petit à petit quand même. Elle a eu des débuts un peu compliqués et puis là, elle est tout simplement impressionnante. Hein.
Oui, elle est absolument impressionnante et puis elle va viser tout simplement après avoir remporté ce matin la première manche du slalom un cinquième titre. Ça serait un record, ça l'est déjà avec quatre titres d'affilée qu'elle avait obtenus entre 2013 et 2019. Un record absolu, Michaela Schifrin qui est en train de poser son empreinte sur l'histoire de cette discipline en particulier, enfin sur l'histoire du ski de manière générale, mais sur l'histoire de cette discipline du slalom de manière assez incroyable. Il faut savoir que si jamais elle vient à prendre une médaille tout à l'heure, ça sera tout simplement sa sixième en six championnats du monde lors de slalom, dont la cinquième en or. Bastoun, c'est monstrueux en fait ce que fait l'Américaine.
Chaque jour, elle met les skis au pied, elle bat les records. Donc voilà, c'est sûr que cette fille-là...
Elle n'est pas si large que ça hein, pour le coup, hein, parce qu'on pourrait penser qu'elle écrase aussi la discipline. Là, elle n'a que 19 centièmes d'avance sur Wendy Holdener. Oui. C'est pas non plus une ultra-domination.
Non, mais que tu gagnes qu'un centième d'avance, une seconde d'avance, ça change rien. Le titre, elle va aller le chercher, certainement. On la connaît, cette fille, dans cette discipline-là, en tout cas. Elle est capable de le faire. Maintenant, le slalom, c'est toujours un mystère. Il y a deux manches. Même quand tu as gagné la première, faut faire le boulot. En tout cas, Michaela, elle a marqué l'empreinte du ski mondial aujourd'hui par sa personnalité déjà, par son talent sur les skis. Et c'est vrai que repousser les limites à chaque fois non plus, c'est pas facile pour une fille comme ça, parce que quand tu te bats sur tous les records à chaque course, à chaque fois la pression des médias, elle est attendue et on lui répète et elle le gère plutôt pas mal pour l'instant.
Voilà, quand on regarde son palmarès, il y a des chiffres
ça fait peur.
85 victoires en Coupe du Monde, 25 deuxième place, 24 troisième place, 2 médailles d'or olympiques, 7 médailles d'or au championnat du monde, c'est tout simplement 13 globes de cristal. C'est hallucinant. Ouais. Elle a que 27 balais, l'Américaine. 27 ans, c'est un bébé encore presque.
Et quand on fait les comptes hein, du nombre de courses qu'elle aura gagnées dans sa carrière professionnelle, elle en a déjà gagné plus qu'Ingemar Stenmark, parce que Ingemar Stenmark il a 86 victoires en Coupe du Monde, il a 2 titres olympiques et 3 médailles mondiales supplémentaires, ce qui fait qu'Ingemar Stenmark il a gagné 91 courses. Quand on regarde Michaela Schifrin, elle en a déjà gagné 94. Voilà, donc ça vous dit un petit peu, le niveau de la fille.
Et en plus, Michaela Schifrin, Bastoun a gagné dans toutes les disciplines. Et ça aussi, c'est un truc incroyable, parce que on a des garçons étonnants comme Odermatt, lui aussi, qui est capable de gagner presque partout. Il a remporté quelques belles médailles
partout,
dans
ces championnats du monde.
Sauf en slalom. Mais Schifrin, elle a l'éventail complet. C'est ça qui est dingue.
C'est ça encore plus sa force. Ils sont pas beaucoup. Hein. On les compte sur les doigts d'une main, voire un petit peu plus avec les hommes et femmes confondus. Elle est capable, oui, de mettre des skis de descente et de gagner. D'ailleurs, elle a fait l'impasse ici parce qu'elle se concentrait aussi sur les titres qu'elle voulait. C'était vraiment gagner la médaille d'or en géant, en combiné, en slalom. Et forcément, il y a un moment, tu es obligé de faire l'impasse quand tu arrives au mois de février, que tu as une grande période de course avant, entre décembre et février. Mais cette fille-là, voilà, c'est un talent pur, c'est l'exception. Et puis elle nous le prouve à chaque fois. Alors, ça, par sa beauté, des fois aussi par son caractère. Hein. C'est vrai, quand on la voit arriver des fois en bas, quand elle est première, c'est tout juste si elle rigole. Et puis quand on la voit arriver sixième, eh ben, elle a la banane, elle a pris du plaisir.
Elle se dit, je suis humaine finalement.
Exactement, voilà, c'est un petit peu ça. Elle a une double facette par rapport au résultat.
Juste si je peux ajouter quelque chose, Christophe, sur Michaela Schifrin, il faut rappeler qu'elle a perdu son papa il y a 2 ans dans un accident domestique. Elle a vraiment souffert énormément parce que c'était son papa, mais c'était aussi son mentor, c'était son homme à tout faire, on va dire, sur sa carrière de ski. Elle a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Ces Jeux Olympiques l'an passé à Pékin ont été vraiment traversés d'une manière assez difficile pour elle. Ça s'est fini en larmes devant les gens journalistes en zone mixte, notamment pour Michaela Schifrin. Et puis il y a eu l'après Jeux Olympiques où elle a commencé à se reconstruire. On a appris qu'elle avait notamment rencontré le champion de tennis, l'ancienne légende Roger Federer, qu'ils avaient parlé tous les deux, qu'il avait dit vis l'instant présent. Elle nous en a parlé, Michaela Schifrin. Elle nous a dit ça a peut-être été le petit déclic qui a fait que j'ai pu repartir de l'avant. Et on l'a vu cet hiver repartir effectivement de l'avant. Et de quelle manière,
déclic. Et puis aussi elle vit avec le skieur norvégien
Alexander Molkite,
qui aujourd'hui, si pour des enfants il ne faut pas qu'ils les noient tous, parce que ça pourrait faire quelques beaux skieurs quand même, hein.
Ah ouais, ça va faire mal, hein, pour les prochaines générations si qui nous gardent un petit peu des petits.
Alors ils sont américains aussi, norvégiens, c'est ça le problème, hein.
Ah, voilà, c'est ça la difficulté. Quand ça les arrangera, ils choisiront leur nationalité. Mais en tout cas, c'est cette fille, voilà, on la voit aussi cette année plus peut-être mature encore, plus explosive, émotive au résultat. Et c'est ce qu'elle explique avec Kittle, lui a amené ces mots. C'était pas plus qu'une machine à gagner, mais c'était aussi une femme, une sportive. Et ça, c'est pas toujours facile. Et cette fille-là, voilà, elle est incroyable parce que elle est capable des fois de se trouer, mais elle est capable de rebondir. Et quand on la voit au départ, ce qu'elle veut, c'est aller le plus vite possible.
Et on rappelle qu'elle a également été la compagne de Mathieu Fèvre il y a de cela quelques années. Mathieu Fèvre qui, lui, malheureusement.
Et ça marchait.
Et ça marchait. Ouais, ben oui, voilà. Ben, je pense qu'elle les booste, ses fiancés ou ses compagnons.
Ah, ben elle leur met la pression quand même, hein, avec les médailles qu'elle a. Elle leur dit maintenant, faites mieux, les gamins, hein.
Quand tu vois ta nana qui gagne 85 courses, t'as intérêt à te lever tôt le matin et à t'entraîner pour faire aussi bien, hein. Mais c'est pas évident. Mais enfin, il se débrouille pas mal quand même, le kill 2. Un mot justement des garçons avec le slalom demain, Bastoun. C'est une épreuve très particulière à tes yeux et à ton cœur. Il y aura en plus. Est-ce qu'il sera là d'ailleurs, Steven? Il a été qualifié pour.
Bien sûr. Bien
voilà.
Sûr, il est là.
Donc ce soir, il va encore mal dormir, le Bastoun. Demain, il va être à cran.
Ça fait quelques jours qu'il dort mal.
Ça, je te garantis. Depuis le début de l'hiver, il est à cran. À chaque fois qu'il y a
eu des péripéties.
Ah, c'est pas facile, hein. Franchement, c'est vraiment pas facile. Quand tu connais la
difficulté du slalom. Hier en Coupe d'Europe, hein.
Voilà, hier, il fait troisième en Coupe d'Europe. Il a fait le voyage à Berchtesgaden en Allemagne parce qu'il était obligé, puisqu'il joue le général de la Coupe d'Europe. Donc il est allé prendre une troisième place il était encore en tête de la Coupe d'Europe aujourd'hui. Malheureusement, il y a une autre course où il n'a pas pu participer parce que priorité à la Coupe au championnat du monde. Mais en tout cas, il sera là, à lui de faire la banane. Il est chez lui, il est originaire de Pralognan, mais du club de Courchevel. À la maison, c'est beau, on voit la route,
peintu,
de la route, on voit la piste.
Peintu.
Ben j'espère. En tout cas, les conditions de piste sont favorables. Lui seront favorables aussi, donc il faudra pas rougir, tenter sa chance. Mmh. Et puis, bien sûr, il y a Clément Noël, notre Clément national, qui est champion olympique, qui a 10 victoires en Coupe du Monde, qui est le leader incontesté du slalom français et mondial. Et ça l'aide aussi énormément quand un personnage comme lui à l'entraînement, ça motive les troupes. Donc maintenant, à eux d'être bons demain. Ouais. Il y aura deux manches, il y a un slalom, ce sera le combat.
Et Alexis Pinturo qui dit
s'accrocher à la locomotive Noël quand on est dans la même équipe. Oui,
oui, Arnaud. Si vous avez pu voir sur les réseaux sociaux les images du départ du slalom de Courchevel, c'est impressionnant. Je vous dis que c'est impressionnant. Là,
ah
c'est
non, mais j'ai vu les images avec la glace vive. C'est ça dont tu parles.
Oui, c'est exactement ça. Je vous invite à regarder.
C'est une véritable
patinoire. C'est une patinoire, et puis c'est une patinoire très très raide en plus. Hein,
il faudrait peut-être avoir les patins de notre ami Candeloro.
Ceux qui vont s'élancer là dans les dossards 60-70.
Ouais, mais alors la neige est un peu en train de changer quand même, non? Avec la chaleur.
Non, là-bas non. C'est dans l'ombre, c'est arrosé.
Non, franchement.
C'est travaillé depuis quelques jours.
Franchement, l'organisation ici sur les sites de Méribel ou de Courchevel, ça a été fantastique. On a vu des courses de qualité. On peut pas dire que les courses, les deuxièmes manches en tout cas sur les disciplines techniques, ont été tronquées par l'évolution du terrain.
Même non, là, hein, on le voit. Hein, ça
reste parfaitement. Ça peut jouer et ça c'est déjà un côté important quand t'es athlète et que tu es au départ, quand tu sais que les conditions de piste peuvent être très bonnes quand tu pars avec un dossard élevé. Et ben ça t'aide aussi à skier vite, quoi.
Voilà, les épreuves de ski qui vont désormais faire partie de la Fédération française des sports de glace. On l'a bien compris. Du côté Courchevel et Méribel. Mais si on va vivre à la fin du slalom, puisqu'elles ne sont plus que trois.
Elles ne sont plus que deux, puisqu'à l'instant, c'est un petit peu la surprise du chef, Christophe. C'est la Québécoise Laurence Saint-Germain qui avait terminé
la nationalisée française.
On aurait pu. Bah, écoute, on va dire
à Steven qui s'en occupe un petit peu.
On va faire ça. On va lui demander tout à l'heure quand on ira aux interviews. Laurence Saint-Germain qui était partie ce matin avec le dossard numéro 18 et qui s'était déjà classé troisième de la première. première manche et qui sera au pire médaille de bronze aujourd'hui. Oui, mais il reste quand même deux cadors à s'élancer, les deux cadors du slalom depuis des années, Wendy Holdener et Michaela Schifrin.
Et c'est pas une surprise, c'est une fille qui était dans le top 15 mondial, qui était même dans le top 7 il y a quelques années et qui s'est reconstruite aujourd'hui par le circuit Coupe d'Europe, qui est revenue sur la Coupe du Monde, qui lâche rien. Elle s'est lancée qu'un dossard 18 aujourd'hui, elle a fait une première manche de toute beauté et elle a su tenter sa chance. Et on sait que ces pays, les Canadiens, les Américains, sur les grands événements, ils sont toujours forts.
Allez, dans quelques instants, c'est la Suissesse Wendy Holdener qui va s'élancer sur cette piste Roc de Fer, 42 centièmes d'avance dans le portillon de départ sur Laurence Saint-Germain. On va rapidement voir si elle est dans le rythme. En tout cas, Laurence Saint-Germain a été vraiment très très régulière sur cette piste. Elle accentue son avance, 65 centièmes d'avance au premier intermédiaire pour la vice-championne du monde de slalom. C'était à Saint-Moritz en 2017, également médaillée de bronze l'an passé dans cette discipline. C'est super ce qu'elle fait pour l'instant, Wendy Holdener.
Wendy, c'est la reine aussi dans ses disciplines. Elle met de l'action, elle met du mouvement, elle engage comme une folle.
Ouais,
toujours, elle prend les risques.
Pop, elle a renforcé, voilà. C'est terminé pour Wendy Holdener. On le voit, le slalom qui est une discipline décidément terrible. Imaginons un seul instant que ça arrive à Clément Noël, ça demain, nous autres Français.
C'est tellement dur pour elle.
Déjà qu'on les a là.
Elle a toujours été la poulie d'or du ski féminin. Ouais. Elle a connu la première victoire cette année. Cette fille qui a 29 deuxième place en Coupe du Monde, qui a une médaille d'argent, et voilà, elle était partie pour aller vraiment chercher aussi ce titre. Voilà. Et le slalom est tellement ingrat, ça se joue à un quart de seconde. T'as beau être dans le timing, t'as eu une petite faute, un piquet qui vient taper sur tes skis, et puis enfourcher. Et là, elle enfourche, et merci, c'est fini, et tu pleures, et tu t'arrêtes au bord de la piste, et tu sais pas quoi faire parce que tu peux pas remonter, c'est fini. La course, la journée est terminée.
La journée est terminée, effectivement.
Très dur.
Ouais, c'est
dur. Au bout de la piste,
ouais.
Quand même.
Ouais, et puis là, elle était vraiment à quelques portes de l'arrivée.
Ouais, hein, puis ça nous tue un peu le suspense parce qu'on se disait que là.
Attention. Laurence Saint-Germain, finalement, crée la surprise aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans quelques instants, Michaela Schifrin va s'élancer dans le portillon de départ avec une avance quand même relativement conséquente sur Laurence Saint-Germain puisqu'elle dispose de 61 centièmes d'avance. C'est parti pour Michaela Schifrin qui vise donc une cinquième médaille d'or mondiale en slalom. C'est tout simplement monstrueux. Elle est déjà à 4, c'est un record, mais alors 5, ça serait absolument phénoménal. Michaela Schifrin qui a engagé sur le début de cette piste. On va voir ce que ça donne au premier intermédiaire. Elle n'a plus que 16 centièmes d'avance, donc voilà, c'est pas si évident que ça aujourd'hui.
Non, c'est compliqué. Hein. On l'a vu hésitante sur le du parcours. Alors cette fille, on sait qu'elle est capable d'accélérer sur quelques portes. Et des fois, elle nous met tellement de mauvaises intentions qu'elle perd du temps. Et puis quand elle doit accélérer, elle accélère. Mais par contre, c'est au match. C'est à 17 centièmes maintenant, au temps intermédiaire. Attention, la petite faute ici.
17 centièmes d'avance au deuxième intermédiaire. Donc pour Michaela Schifrin qui va en terminer dans quelques instants. C'est désormais 2 dixièmes de retard pour l'américaine qui n'est donc pas imbattable. Est-ce qu'elle va réussir à faire le bas de sa vie pour ce cinquième titre de champion du monde? Eh bien non, elle est derrière. Elle est deuxième, Michaela Schifrin. Laurence Saint-Germain, la canadienne, sacrée aujourd'hui à Méribel sur la piste Roc de Fer. Elle succède à l'autrichienne Katharina Linsberger. C'est la petite surprise du jour. Michaela Schifrin qui n'en revient pas, mais oui, elle est bien deuxième. Elle a perdu plus d'une seconde sur Laurence Saint-Germain sur cette manche de slalom. Mais la collade entre les deux jeunes filles, tu le disais tout à l'heure, elle est humaine et des fois ça lui fait plaisir aussi de voir qu'elle est humaine. En tout cas, elle n'aura pas une huitième médaille d'or en carrière, toutes disciplines confondues, Michaela Schifrin.
Comme quoi, quand on a tout, la tête, le palmarès, tout ce qui va avec les victoires, même sur un grand événement comme les championnats du monde, c'est particulier parce qu'on est attendu. Cette pression-là, elle pèse énormément. On l'a vu hein, dans le doute un peu sur le haut du parcours, sur cette deuxième manche hésitante. Et puis, elle n'a pas produit ce que je vous avais expliqué, c'est que des fois, sur 7-8 portes, elle est capable de prendre la vitesse. Ben, elle l'a pas fait aujourd'hui. Elle est deuxième seulement. Derrière, la canadienne, Laurence Saint-Germain, exceptionnelle, qui a vraiment tenté sa chance aujourd'hui et qui a encore marqué pour sa nation une médaille d'or.
Incroyable, voilà. Surprise donc la victoire de Laurence Saint-Germain, la canadienne qui s'impose devant Schifrin et Lena Duer, l'allemande qui termine troisième, la première française, elle est loin, elle est très loin. Nastassia Noens, l'ancienne de cette équipe de France, est 15e à 1,48. Merci les garçons, on vous retrouve demain évidemment pour le slalom masculin avec Clément Noël, mais pas que. Merci Bastoun, merci Arnaud. Dans un instant, nous partons à Oberhof pour le biathlon. On va revenir sur la magnifique victoire de l'équipe de France en relais au championnat du monde. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
14h26 sur RMC. On va rester dans les sports de neige. Nous quittons Méribel pour prendre la direction de Borough en Allemagne pour l'avant-dernière journée des championnats du monde de biathlon et la première médaille pour l'équipe de France masculine. Et quelle médaille dans l'épreuve de relais. Nos Français qui ont battu les invincibles, les imbattables, les incroyables Norvégiens qui n'ont rien vu, qui n'ont vu que les spatules de Quentin Fillon-Maillet, d'Antonin Guigona, de Fabien Claude et Émilien Jacquelin. J'avais les quatre mousquetaires dans le désordre. Ils ont été étonnants, incroyables aujourd'hui dans une épreuve qui a été marquée par pas mal de vent. On est avec un de nos champions du monde, mais également champion olympique. Il a tout gagné. Mais là, cette année, c'était plus difficile. Eh bien, Quentin Fillon-Maillet a décroché cette médaille qui fait peut-être encore plus plaisir que les autres parce qu'elle est décrochée avec les copains. Bonjour Quentin et bravo.
Bonjour, merci.
Bon, celle-là, elle fait du bien parce que c'est une. Alors, s'il y a bien une médaille qu'on ne pensait pas que les Français allaient pouvoir décrocher, c'est bien celle-là. Quentin, vu les énormes prestations réalisées tout au long de l'hiver par ces imbattables Norvégiens, eh ben vous les avez battus, vous les avez tapés les Norvégiens.
Ouais, c'est sûr, elle représente beaucoup cette victoire aujourd'hui parce que les Norvégiens sont tellement forts sur le papier déjà, mais aussi en compétition. Ils ont, il me semble, quasiment gagné tous les relais depuis le début de saison, ou quasiment. Et c'est vrai que nous, on est outsiders. C'est vrai que les résultats de l'équipe de France depuis le début de saison sont pas excellents. Et donc, on attendait beaucoup cette relais, mais pour aller chercher la victoire, c'était un autre challenge. Et aujourd'hui, on l'a fait. Donc, c'est ouais, grosse satisfaction. Et puis, merci à mes collègues parce qu'ils ont fait un super boulot. Ils m'ont donné le relais avec un peu de pression, ça c'est sûr. Mais, mais voilà, c'était du bonheur.
Ah oui, c'est vrai que quand tu prends le dernier relais, tu as quoi, une grosse quarantaine de secondes d'avance sur le monstre, Johannes Bø. Mais on sait qu'avec lui, ça peut vite s'envoler, ce genre de secondes d'avance. Donc la pression là, c'est aussi ça, l'avantage d'être un garçon d'expérience et d'avoir déjà vécu ce genre de choses. Quentin, si on avait mis un petit jeune à la fin, ça aurait été peut-être plus compliqué. Mais toi, tu as gardé la tête froide, notamment sur ton dernier tour où tu as joué les Lucky Luke. Hein.
Ouais, c'est sûr que c'était beaucoup de pression. Donc, quand les collègues ont bien fait devant, ils me donnent au deuxième à quasiment rien de la République tchèque qui était pas forcément le gros adversaire sur le papier. Mmh. Et ben, il faut finir le travail. Et puis surtout face à Johannes qui est pas très proche de moi, mais non plus pas trop loin, donc il fallait vraiment finir. Et voilà, j'aborde la course comme une course individuelle, à donner le maximum sur la piste. Et finalement, et ben, je passe le premier tir, je conserve à peu près mon avance, mais en ayant perdu quand même un petit peu. Et je me dis, il faut laisser aucune chance aux Norvégiens, donc j'engage le tir dans des conditions plutôt ventées où tout peut se passer, mais j'ai essayé de pas trop réfléchir, j'ai tiré très vite et voilà. Et après discussion avec Johannes dans l'air d'arrivée, il m'a dit que voilà, quand il avait vu mon tir, ça lui avait fait un peu baisser les bras pour tenter de revenir dans la dernière boucle, surtout qu'il y avait voilà plus d'une trentaine de secondes, donc c'était compliqué. Mais avec Johannes, c'est sûr, on sait pas toujours à quoi s'attendre. En tout cas, il est très fort sur les skis et
lui aussi, il a réalisé une dernière séance de tir hallucinante. Hein. Il a envoyé les cibles à une vitesse grand V, mais tu avais trop d'avance et puis tu avais réussi une séance de tir incroyable. Alors, on sait que dans le peloton cycliste, quand on est en tête et qu'on a un adversaire qui revient, on est averti par l'oreillette des temps qui te séparent. Comment toi, tu fais pour savoir ce qui se passe? Est-ce que tu demandes à tes entraîneurs d'avoir des écarts chronométriques ou alors il faut pas parce que ça met encore plus de pression?
Ça dépend de la situation. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive à sortir du pas de tir, j'arrive à avoir l'écran géant pour avoir les infos, voir où c'est que j'en suis. Donc après le coucher, je vois que bon, déjà, je conserve à peu près mon avance. Et derrière, après, voilà, il faut pas trop réfléchir, hein, parce que de toute manière, si je me mets à me dire, ben oui, là, il a pris tant de temps, etc. Déjà, les calculs sont compliqués quand on est dans le rouge. Mais du coup, voilà, j'ai pas spécialement réfléchi, je voulais déjà faire ma course et après on fait les comptes dans le dernier tour et donc du coup voilà, c'est sûr que comme j'ai dit, ça représente beaucoup et ça a pas été une course facile. Hein. Les conditions étaient dantesques aujourd'hui, beaucoup de vent, de la pluie. Mais voilà, les conditions sont belles quand on réussit et sont toujours compliquées quand on réussit pas. Donc aujourd'hui, c'était grand beau sur Borov et puis c'est à Marseillais ce soir. Donc ça fait vraiment plaisir.
Ouais, et puis c'est sympa de voir que tous les quatre vous ayez réussi une course. Il y en a pas un qui s'est planté, quoi. Vous avez tous les quatre été au même niveau et il fallait l'être à ce haut niveau pour espérer battre les Norvégiens. Quentin, il reste encore une épreuve dans ces championnats du monde en individuel. Ce sera demain la Mastart, une épreuve où tu as souvent brillé par le passé. Quand on est comme ça subjugué par une médaille d'or en équipe, on se dit que voilà, ça peut se terminer en apothéose ces championnats du monde. Eux qui ont débuté un peu de manière un peu compliquée quand même pour toi.
Ouais, c'est vrai que si on compare ça aux Jeux Olympiques de l'année passée, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est jamais facile d'arriver à sortir des Jeux Olympiques. Donc j'ai eu quelques complications, mais ça revient de mieux en mieux. Le tirer là, donc maintenant, voilà, il faut se remettre dans la Mastart. Ça c'est un peu dur parce que j'aurais bien célébré avec toute l'équipe et tout ça, mais ça va être repos, massage et puis étirement.
Ouais, vous serez toute l'équipe sera demain présent à la Mastart ou
les quatre du relais aujourd'hui sont présents sur un Mastart. Ouais. Après il y a pas les quotas supplémentaires pour les deux jeunes qui sont là, Eric et Oscar, mais ils courront par la suite.
Ouais, bon, ce soir pas de champagne. Alors désolé Quentin, mais il faudra attendre demain soir.
Hein. Peut-être un verre, mais voilà, ce sera tout.
Un tout petit verre. Merci Quentin, c'était un bonheur de discuter avec toi. Je crois qu'Antonin Guigona est également à tes côtés. On va discuter quelques instants avec lui.
Et il a déjà les oreillettes.
Il est déjà prêt.
Je suis connecté. Bonjour à vous.
Salut Antonin.
Bon, moi, je dois y aller.
Merci, Quentin. Merci beaucoup et bravo pour cette magnifique médaille d'or. Ouais, Antonin, on en parlait avec Quentin. C'est vrai que décrocher une médaille d'or avec les copains face aux imbattables, aux invincibles Norvégiens, waouh, ça, c'est d'une perf, hein, une sacrée perf. Hein.
Ouais, c'est carrément ça. La Norvège, l'équipe qui est alignée aujourd'hui, j'ai les stats, mais elle est invaincue depuis. En tout cas, cette année, je crois qu'il y a. T'es battu, donc c'est une fierté. Hein. On dit, dis-moi qui tu bats, je te dirai qui tu es. Là, collectivement, on a battu le monstre, hein, Johannes. On a battu la grille, Tarier et Vettelé. Donc c'est vraiment, c'est une grosse perf collective. On sent, c'est pas un exploit dans le sens où on est capable aussi. On a une très belle équipe de France, mais cette année, on est un petit peu en recherche de résultats tous. Et puis c'est comme je dis, c'est pas l'exploit, ça avait déjà été fait. J'espère qu'on le refera, mais quelle course.
Ouais, il y a deux ans, je crois, au précédent championnat du monde, tu avais également été titré, mais c'était un relais mixte simple, c'est ça. Hein,
c'est, relais c'est, simple mixte, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Ouais. Est-ce qu'on accorde
avec Julien.
Avec Julien, qui est aujourd'hui la grande dame du biathlon en équipe de France, mais c'est une épreuve qui est peut-être un peu moins connue du grand public. Le relais masculin, le relais féminin, ça a une vraie valeur, surtout. Mais je dis pas que ta première médaille d'or n'avait pas de valeur, mais celle-là est encore.
Ouais,
un
non,
il
y a pas de souci avec ça. C'est sûr que c'est le relais simple mix, hein, qui est nouveau. Moi, je l'ai vu débarquer en Coupe du Monde. J'ai même, avec Anaïs Chevalier, on avait testé, je crois que c'était en 2014, on avait testé un format vraiment de test. C'était pas encore officiel pour voir si cette épreuve pouvait vivre en Coupe du Monde. Bon, c'était une fierté de gagner ce titre avec Julia. On n'était pas forcément l'équipe favorite pour la France à ce moment-là. Et puis, on avait surpris notre monde avec nos qualités de tireur et de sprinter. C'était vraiment une super journée. Aujourd'hui, on gagne la course des grands, comme j'ai dit, devant les quatre Norvégiens. Donc, c'est une grande fierté. Et puis, voilà, l'équipe masculine, c'est vraiment mon équipe. On passe tellement de journées ensemble sur l'année. C'est-à-dire, il y a que le mois d'avril où on va potentiellement pas se voir. Et encore que, avec Emilien, on se retrouve même au mois d'avril. Mais voilà, c'est au moins 10 jours de stage par mois et puis 3 semaines par mois de Coupe du Monde tout l'hiver, de novembre à mars. Donc on passe autant de temps avec les coéquipiers qu'avec nos copines. Donc c'est forcément fort quoi, ce qu'on vit aujourd'hui.
Eh ben écoutez, mon cher Antonin, vivez-le bien ce soir avec les copains, mais pas trop parce que demain il y a la Mastart, donc voilà.
Ah, il faut. Trop. Moi j'ai vraiment les jambes démolies. Là j'ai vraiment tout donné dans ce relais. Et demain le 15 km il va être très difficile. Mais
15 bornes, voilà, va... c'est long. Hein. Mastart, c'est
ça,
long.
Pourquoi pas rebattre les Norvégiens demain?
Allez, voilà le challenge. Battre à nouveau Bø et ses copains. Merci Antonin et bravo pour cette magnifique médaille d'or. Et bonne fin de championnat du monde donc demain avec les Mastart féminines puis masculines. Le relais féminin qui débutera d'ailleurs dans 25 minutes. On retrouvera Julien Richard tout à l'heure. On espère pourquoi pas une deuxième médaille d'or. Bah oui, avec Julia Simon et toute l'équipe de France féminine. C'est dans le domaine du réalisable. 14h37 sur RMC. On revient dans un instant. On va vous parler de foot, on va vous parler de rugby également et puis suivre cette épreuve du relais dames à Oberhof. Enfin, tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
14h39 sur RMC. Nous allons repartir pour Oberhof dans un instant. Nous serons également à Jean Daugé dans quelques minutes pour y retrouver Paul Lafitte pour le match d'ouverture de la 18e journée du top 14 entre l'Aviron Bayonnais et le Stade Français. Mais il y a également un match de foot cet après-midi en Ligue 2 qui va opposer là aussi dans 20 minutes les Girondins de Bordeaux au Paris Football Club. Match que va nous commenter Romain Asselin. Salut Romain.
Salut.
Bon, que dire de cette équipe bordelaise? Il me semble que le président et l'entraîneur ont eu des mois assez durs.
Ça a tremblé un peu, hein, je crois, au Wayan. Ça a tremblé au Wayan. Gaëtan Poussin, déjà après la défaite samedi dernier à Niort, grosse défaite hein, chez la Feu Lanterne Rouge, défaite 3-1. Il avait poussé un gros coup de gueule face au micro. Il y a eu aussi des coups de gueule dans le vestiaire. Et puis le président Gérard Lopez qui s'est invité au Wayan mardi pour un petit peu remonter l'état des troupes, là, parce que, mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce que cette équipe de Bordeaux, certes elle reste dans le coup pour la montée, elle est troisième, un point de retard sur Sochaux, mais attention parce que les points laissés en route par exemple à Niort, ils pourront coûter cher au moment de faire les comptes. On rappelle qu'il n'y a que deux équipes qui monteront cette année en Ligue 1 et l'objectif de Bordeaux c'est évidemment de monter. Bonne nouvelle quand même côté Girondin, c'est le retour du capitaine Johan Barbet cet après-midi face au Paris FC. En revanche, Maja, le meilleur buteur des Girondins avec 11 buts inscrits cette saison, va démarrer sur le banc. Ce sera Aliou Badji qui sera à la pointe de l'attaque girondine.
Très bien, on va te retrouver tout à l'heure Romain pour ce match important. Le Paris Football Club, ils sont mieux à l'extérieur de toute façon parce que leur pelouse n'était pas vraiment en bon état la semaine dernière.
Ouais, ça fait un petit moment que ça dure. Hein. Effectivement, le match, la réception d'Amiens a été reportée. D'ailleurs, ce sera début mars, un mardi en pleine semaine. C'est très compliqué pour les hommes de Thierry Lauré à Charletti avec un bilan absolument catastrophique. Ils sont 19e à l'extérieur et à domicile et ils sont 2e à l'extérieur. 5 victoires cette saison. Donc il y a quand même des motifs d'espoir pour les Parisiens, mais si tu regardes le 11 de départ, il n'y a que un but marqué par les 11 joueurs alignés d'entrée depuis le début de la saison, et il faut remonter au mois d'août, tu vois. Donc bon, c'est vrai que Thierry Lauré il a choisi plutôt un dispositif défensif. Il ne faut pas en oublier de marquer des buts.
Ce serait bien quand même d'arriver à en marquer quelques-uns. De temps en temps, au foot, c'est pas mal. Merci Romain, à tout à l'heure pour ce match donc entre Bordeaux et le Paris Football Club. Tiens, on va en parler justement de cette pelouse de Charletti avec le patron des sports de la ville de Paris, qui est également mon consultant, l'ancienne star du Stade Français, Pierre Rabadan. Bonjour Pierrot, comment ça va?
Ça va Christophe, salut à tous.
Bon, ils sont où les jardiniers de Charletti?
Ils sont dessus là, ils sont sur la pelouse. Écoute,
elle a quoi là, une maladie
elle,
ou
elle a été changée à l'intersaison, là, retour au plaqué, et il y a eu 25 matchs sur la pelouse depuis le début de l'année, donc un peu plus d'un match par semaine, mais il n'y a jamais d'entraînement, elle a pas pris à certains endroits en fait, donc malgré l'entretien accéléré qui a été mis dessus... Et vous l'avez vu, on l'a tous constaté avec beaucoup d'agacement pour ma part, que tout un côté, le côté le plus proche de la tribune présidentielle, on va dire, voilà, qui était le plus à l'ombre, ne tenait pas. Donc voilà, constatant l'état déplorable de la pelouse, eh ben on a préféré avec le club arrêter les frais et replanter.
Voilà, mais ça prend du temps.
Les zones.
Ça, le temps que ça
alors
prend,
là, vraisemblablement, on a donc il y a eu un arrêté qui a été pris pour pelouse impraticable et il y a une quinzaine de jours où le terrain est complètement inoccupé. Vraisemblablement, ça devrait permettre de faire reprendre. Une partie là, la partie réengazonnée.
D'accord.
Et puis on a un projet à court terme, à la fin de cette saison, de passer en hybride. Ça, on l'avait déjà l'année dernière. Mais voilà.
Et l'hybride, ça pose moins de problèmes.
L'hybride, c'est plus résistant, ouais. Ça peut supporter plus. Plus de matchs, voilà, il y a les masculins, le PFC masculin qui joue, il y a le PFC féminin, mais comme je dis, il n'y a pas d'entraînement. Il y a eu quelques matchs du Paris Trail Atlético aussi, mais il n'y a pas d'entraînement, donc normalement elle devrait tenir cette pelouse malgré ça. Et vraisemblablement, le prestataire qui est le jardinier n'a pas réussi à, en tout cas, avoir un résultat satisfaisant. Donc je suis le premier à qui est insatisfait, évidemment, avec le club utilisateur, hein, le PFC. Ouais. Donc maintenant, voilà, on a trouvé cette solution à court terme. Et puis le changement de pelouse à l'intersaison pour que ça n'arrive plus.
Bon, on peut pas demander au Paris Saint-Germain qui prête le Parc des Princes pour faire les matchs du PFC, c'est pas possible.
Ils sont pas trop prêteurs.
Ils sont pas prêteurs de ce côté-là. Très bien, Pierre. On va parler de rugby avec toi. Ah ben ça y est, on a retrouvé notre ami Paul Lafitte, qui a eu du mal à rejoindre le stade Jean Daugé. Évidemment, il était au Barjean il y a encore une demi-heure. C'est loin quand même d'aller de Biarritz jusqu'à Bayonne quand même par le BAB.
4 km. Salut Christophe, salut Pierre, bonjour à toutes et à tous. 4 km 4. Alors, pour être précis, 4 km 8 du Margent jusqu'à l'entrée de Jean Daugé. Voilà.
Mais avec ton scooter, ça va vite quand même.
Oui, oui, mais tu sais, en arrivant de Pau, il y a quand même 120 km. Alors, on a pris la voiture, on a été sérieux aujourd'hui. Évidemment.
Évidemment. Pour ce match entre donc l'Aviron Bayonnais et le Stade Français, deux clubs, c'était pas gagné d'avance en début de saison, qui jouent tout simplement la possibilité d'aller décrocher une place pour les phases finales. L'Aviron Bayonnais est actuellement dans les clous, ils sont 6e et le Stade Français est tout simplement le dauphin du Stade Toulousain. L'Aviron Bayonnais, 1-20. Vaincu à la maison, Jean Daugé est une citadelle imprenable. Jusqu'à quand, mon cher Paul ?
Ah ben, l'équation dont nous a parlé Grégory Pata, le manager général des Ciels et Blancs, hier lors de la mise en place de la dernière conférence de presse avant donc cette rencontre, c'était ce bloc de deux journées qui sera déterminant pour voir si l'Aviron Bayonnais peut jouer le top 6 en fin de saison, c'est-à-dire la réception donc du Stade Français cet après-midi, Christophe, et la réception du Castres Olympique, ce sera samedi prochain ici même à 17h. Et à l'issue de ces deux journées, peut-être qu'en cas de double victoire, les Bayonnais pourront regarder vers le haut. Pour l'instant, évidemment, on parle encore un petit peu du maintien. Même si Bayonnais compte aujourd'hui 15 points d'avance sur la 13e place, autant dire un boulevard qui devrait leur permettre de terminer la saison les mains en haut du guidon. Mais on en veut plus avec, comme tu le précisais, cette citadelle, cette forteresse imprenable. 8 journées de top 14 jouées ici et 8 victoires, dont notamment des gros. On le rappelle, face à Toulouse, c'était un Toulouse B, face à La Rochelle, le champion d'Europe, face à l'UBB, face au Racing 92, des montagnes de ce championnat qui se sont cassés les dents sur cette équipe de l'Aviron Bayonnais. Alors pourquoi pas cet après midi face au Stade Français, Christophe, qui lui aussi joue bien, tu le précisais, depuis le début de la saison.
Exactement, même si à l'extérieur c'est un peu plus compliqué pour le Stade Français. Pierre, toi qui as joué dans tous les stades de France, Jean Daugé, c'est un endroit particulier dans ta mémoire, enfin c'est un endroit où il fait pas bon être joueur de rugby adverse.
C'est un endroit où il y a une ambiance unique, voilà, ça c'est évident. Au-delà des champs, de l'entrée, voilà, il y a une atmosphère bien particulière. Alors ça n'a pas toujours souri à Bayonne comme cette année, et tant mieux pour eux. Voilà, je crois que le travail aussi qui a été mis en place, un recrutement judicieux et quelques joueurs qui ont émergé au meilleur niveau, alors elle les amène aujourd'hui à pour l'instant garder Jean Daugé imprenable. On verra aujourd'hui, mais il est clair que ils ont à mon avis passé le cap annoncé par Grégory Pata du maintien. Maintenant ils regardent un peu plus haut et ils se sont donné les conditions pour. Mais c'est toujours un moment particulier. Je trouve que d'aller jouer à Bayonne, c'est généralement quelque chose que l'on coche dans le calendrier, ouais. Et pas uniquement à cause du Barjean.
Et on aime bien rester aussi le soir pour boire du coup dans ma main, c'est sympa.
Exactement. C'est plutôt sympa.
Et passer le reste du week-end sur la côte basse. Un mot du Stade Français, Pierre, qui là aussi a été étonnant depuis le début de la saison. On se rappelle de cette tragicomédie en début de saison avec Essada qui est viré pour l'année prochaine. De ses remplaçants sont annoncés. On se demande s'il va pas lâcher le morceau et que si l'équipe va pas lâcher le morceau, et puis ça a provoqué l'effet inverse, et le Stade Français, on les arrête plus. 50 points marqués depuis le début de la saison, combien, 10 victoires, 6 défaites et 8 points de retard derrière l'intouchable Stade Toulousain. C'est une saison hallucinante que réalise le Stade français.
Bah, écoutez, au vu du, vraiment du début de saison du premier bloc, on pouvait pas s'attendre à ça, mais voilà, il y a eu une réaction. Alors, je sais pas, je doute qu'elle ait été calculée, mais effectivement, sur l'annonce de l'évolution du staff, qui a fait que les joueurs se sont regroupés autour de leur entraîneur actuel et ont passé un cap clairement à la fois dans l'engagement et dans la capacité à répéter les bonnes performances. Donc voilà, ils sont deuxièmes, ils ont bien mérité d'être là où ils sont aujourd'hui. On va voir comment la suite de la saison va aller, mais en tout cas ils ont surpris agréablement, ils ont trouvé de la cohérence, ce qui leur manquait un peu. On les savait capables de coups d'éclat, mais là ils ont vraiment trouvé une cohérence et une continuité dans les résultats. Puis il y a quelques joueurs, on pourra peut-être en reparler pendant le match, mais Abel Kufner qui est arrivé, qui a fait énormément de bien devant, avec aussi Jeremy Ward, le deuxième centre, qui est arrivé. C'est des joueurs dont on parle pas toujours beaucoup, mais qui ont régulé dans la tactique mise en place par le Stade français avec un paquet d'avant-conquérants, une bonne occupation au pied, puis une pression défensive intense. Voilà, c'est leurs trois ingrédients et pour l'instant, ils marchent bien.
Ils marchent bien, ces Parisiens. Ils veulent faire un gros coup cet après-midi en terre basque au stade Jean Daugé. Tiens, on va écouter justement Laurent Sempéré, l'un des entraîneurs du Stade français, à propos de l'adversaire du jour. Laurent Sempéré.
On a essayé justement d'avoir une semaine un peu structurée parce qu'on sait qu'on a un sacré des challenges qui arrivent devant nous. Personne n'a réussi à le faire depuis le début de la saison. Les Bayonnais, c'est une équipe très très solide. C'est un bel exemple en termes de jeu. Ils maîtrisent parfaitement ce qu'ils font. Ils restent dans des choses très sérieuses. Et après, sur quelques écarts de génie, avec des joueurs qui cadrent bien le jeu chez eux, ils sont capables de faire la différence. Et ils l'ont beaucoup fait depuis le début de la saison. Donc, il n'y a plus d'effet de surprise.
Plus d'effet de surprise, on sait de quoi les Bayonnais sont capables, les Parisiens sont prévenus et on verra s'ils sont capables de faire tomber cette invincibilité à domicile. Ça s'annonce quand même compliqué. Il y a d'autres belles affiches tout au long de ce week-end et notamment cet après-midi à partir de 17h. Je vous donne la liste. Castres-La Rochelle, Lyon-Montpellier, Racing 92, Brive et Perpignan-Pau. Et puis à ce soir à 21h05, un classique du championnat de France entre Toulon et Toulouse. Même si les clubs, on le rappelle, Pierre, sont encore privés de leurs internationaux. C'est pas un week-end de doublons, mais c'est tout comme ça. Un faux doublon, en quelque sorte, hein, ce week-end.
Ouais, ben, je crois que vu l'intensité qu'on a vue sur France-Irlande, hein, il faut aussi ménager les joueurs français, les internationaux ou ceux qui sont proches de l'être, parfois, qui s'entraînent avec le 15 de France. Mais voilà, ça va être une super.
Delbouis, d'ailleurs, sera sur la pelouse cet après-midi, ouais, côté parisien. Ouais, hein.
Il va jouer.
Il n'a pas joué avec le 15 de France, non. Mais il a fait tous les entraînements.
Exactement.
Tous les
stages. Donc après, voilà, c'est vraiment du cas par cas. Hein, je crois qu'en tout cas, c'est la demande du staff du 15 de France en fonction de l'implication, effectivement, du temps de jeu. Mais ça va être Toulon-Toulouse. C'est toujours une affiche spectaculaire au Vélodrome avec plus de 40 000 personnes. Voilà, un match particulier. Et puis Toulouse, on le sait, hein, et bien sûr, on en a déjà parlé ici il n'y a pas longtemps. Ils sont évidemment privés de leurs internationaux, de leurs meilleurs joueurs, mais ils ont quand même une équipe encore consistante qui est capable d'aller faire des résultats à l'extérieur. Et ça a toujours été l'histoire des doublons de Toulouse.
Ouais.
Parfois des périodes difficiles,
ça a
mais aussi.
Marché. L'année dernière, ça a été plus compliqué.
Voilà, mais c'est pas du 100%, mais voilà, ils ont aussi une équipe. Assez cohérente et homogène, voilà, mais bon, c'est sûr que c'est pas toujours du même niveau, mais en tout cas ça va être quand même un match que moi je vais regarder avec beaucoup de plaisir et d'attention.
Exactement.
Puis j'en profite pour faire un salut amical au capitaine de ce soir du Stade Toulousain, Sergio Parisse. Voilà, qui a perdu son papa et je sais
de
que
de Toulon,
voilà,
tu veux dire, hein,
de Toulon.
Ah, il a perdu son papa.
Ouais, et donc voilà, je sais,
ouais,
je
qu'il a longtemps qu'il nous écoute,
mais
au stade
mais
français,
voilà,
hein.
Je sais que c'est un moment très difficile pour lui et qu'il va tenir sa place, donc voilà, je lui envoie toute mon affection.
Sergio Parisse, monstre du rugby italien, argentin d'origine et parisien pendant de nombreuses années, qui a été ton équipier et qui mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison, je crois.
Ouais.
Hein. Quel âge il a maintenant, Sergio?
Il est de 86, donc je te laisse calculer, il va y offrir à 38, 39.
Ouais. Ça commence à faire.
Ouais, mais bon, il est encore performant. Voilà, il a encore des objectifs dans la tête. Donc voilà, si son corps lui permet de le faire, il a le talent largement pour y arriver.
Toulon-Toulouse, ce soir 21h05. En attendant, nous, on sera à Bayonne dans un instant pour le coup d'envoi de Bayonne Stade Français. On suit également le relais féminin au championnat du monde de biathlon à Oberhof. Et puis le foot, donc, avec cette rencontre entre Bordeaux et le PFC. Il est 14h52. On revient dans quelques instants sur RMC.
RMC, Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
Allez, 14h59, le début de nos directs. Ils sont trois cet après-midi, le rugby, le foot et le biathlon. Avant de partir à Jean Daugé, retrouver Paul Lafitte. Tout d'abord, Julien Richard, pour le départ du relais féminin. On a vibré avec toi et avec nos Français tout à l'heure. Médaillé d'or chez les garçons. Les filles sont-elles capables de faire la même chose? On va le savoir dans quelques instants, Julien. Salut.
Salut Christophe, salut à toutes et à tous. Le départ donné, en tout cas, de ce relais féminin, où les Françaises finalement sont un peu dans la peau des Norvégiennes de tout à l'heure, à savoir qu'elles sont les grandes favorites. Elles ont gagné deux fois cette saison avec la même composition d'ailleurs: Lou Jean Monod, Anaïs Chevalier Boucher, Chloé Chevalier pardon, et Julia Simon, la championne du monde de la poursuite. Pour terminer, le départ vient d'être donné donc pour ce relais féminin.
Eh bien Julia, elles ont une bonne chance. Est-ce qu'il y a une équipe qui domine vraiment les autres cette saison, comme l'était par exemple la Norvège chez les garçons, mais qui ont, ils sont fait taper?
C'est ça, c'est exactement ce que je te disais, c'est-à-dire que la France domine et on a vu quand même 4 Françaises qui sont montées sur un podium cette saison, hein. Les 4 relayeuses sont montées au moins une fois sur le podium. On a la leader du classement général de la Coupe du Monde, Julia Simon. Elles ont gagné 2 fois en relais cette saison, mais sur le papier, si elles sont favorites, il y a également une nation qui est très très forte sur ces championnats du monde, c'est la Suède de Anna Öberg, qui terminera également ce relais, et sa petite sœur, dont c'est un peu plus l'incertitude, c'est parce qu'elle était malade cette semaine sur ces championnats du monde, Elvira Öberg. Mais sur le papier, ce sont certainement les principales rivales de cette équipe de France, avec l'Allemagne à domicile de Denise Hermann-Wick, ou encore avec la Norvège de Marthe Holsbu-Roiseland.
Très bien, on te retrouve tout au long de cette course, avec notamment les séances de tir. Le relais, c'est une épreuve assez longue, on va se régaler tout au long de l'après-midi. C'est également parti à Chaban, non pas à Chaban,
au Matmut. T'as quelques années de retard quand même.
Chaban, mais non, mais parce que je pensais à l'UBB.
Ce sera demain soir.
On parlait de l'UBB tout à l'heure, qui va accueillir son ancien entraîneur, Christophe Furios.
Ça promet.
Donc le Matmut Atlantique pour ce match entre Bordeaux et le PFC. Il fait beau à Bordeaux cet après-midi.
Il fait 19 degrés. Écoute, à la limite, fait tomber la veste là. Non, les conditions de jeu sont idéales. Grand soleil, grand
ciel. C'est autre chose qu'à La Rochelle quand même là.
Ouais, tu viens me chercher sur ce terrain là. À La Rochelle, c'est au bord de la mer, ça change plus souvent. Tu sais, le temps est variable. Mais
je sais. Mais oui, mais bien sûr, j'adore cette ville, j'adore cette région.
En tout cas, c'est parti depuis deux minutes ici, Christophe, au Matmut. 0-0 pour l'instant, avec un ballon pour les Parisiens qui vont fonctionner en 5-4-1, visiblement assez défensif. Hein, ce dispositif choisi par Thierry Loret, on en parlait en avant-match, sur les 11 joueurs alignés par Thierry Loret cet après-midi sur la pelouse du Matmut. Un seul a marqué un but, c'était en tout début de saison, c'est le défenseur Maxime Bernauer. Bien sûr, il y a Boutaïb qui a fait son retour il y a quelques semaines et qui a marqué en Coupe de France, qui n'a pas permis d'ailleurs au PFC de voir les quarts de finale. Avec ce ballon pour Bernauer, justement, qui va pouvoir dégager vers Boutaïb. Et le ballon repris par Lacou, avec les hommes de David Guillon qui vont se mettre en 4-3-3 après un passage en 4-4-2 suite à la blessure de Issouf Sissoko, qui n'est pas revenu, qui est toujours blessé. Mais le passage en 4-4-2, il n'a pas du tout été satisfaisant pour les Bordelais, qui sont inclinés à Niort la semaine dernière. Oh, attention, ce tacle là, alors que Alimani Gori allait rentrer dans la surface, et l'intervention de l'arbitre qui va finalement siffler une faute en faveur des Girondins, qui s'en sortent bien sur ce coup là c'était un peu appuyé, l'impression qu'il revenait un peu du diable Vauvert là. Il me semble que c'était Junior Mwanga qui est aligné en défense centrale aux côtés du capitaine Yohan Barbé, dont le retour va faire beaucoup de bien à cette équipe des Girondins. Il n'était pas là à Barbet la semaine dernière à Niort. Ça s'est senti avec cette défaite 3-1, 0-0 pour l'instant après 4 minutes de jeu, et pas d'occasion ni d'un côté ni de l'autre.
Ok Romain, tout à l'heure on suit également le rugby. On a de gros problèmes techniques avec notre correspondant à Bayonne, Paul Lafitte, qui pour l'instant n'est pas en mesure de nous commenter le match. Heureusement, on a les images. Pierre, le coup d'envoi a été donné il y a un peu plus de 3 minutes. Pour l'instant, le score est toujours de 0-0, mais les Parisiens se montrent déjà volontaires, hein. Ils ont envie de scorer rapidement.
Oui, ils ont pour l'instant la main sur le ballon, hein, depuis le début du match, mais sans pour l'instant avoir ouvert le score, et ils continuent même en restant dans le camp des Bayonnais et en allant peut-être chercher des solutions au large. Donc voilà, pour l'instant un bon début de match pour le Stade français, et peut-être une Première occasion là.
Ah, on se rapproche une d'embu effectivement de l'aviron bayonnais. Les Parisiens qui sont à 3 mètres avec le ballon, ouais, qui est volé pour le premier essai. Là-bas en bout de ligne, complètement sur le côté droit. Essai inscrit par le troisième ligne Irigoyen, qui permet au Stade français d'ouvrir la marque et de mener 5-0. Magnifique essai. Hein.
Ouais, le clin d'œil du destin dans l'ensemble de Garros qui marque à Bayonne. Mais oui, bien, très, très bien joué avec Thuy qui avait trouvé. De l'avancée, hein, notamment dans les 22 mètres, et puis la passe sur un pas de Léo Barré qui a permis à Mathieu Irigoyen de marquer cet essai au terme d'une super séquence, hein, de l'équipe de la capitale. Donc une belle entrée en matière concrétisée par cet essai au bout de moins de 5 minutes de jeu.
Eh ben, les Parisiens qui entament la plus belle des manières cette partie 5-0 avec la transformation à suivre dans un instant pour sans doute Morgan Parra. C'est Parra qui bute, hein,
ou Joris Second.
Ou Joris Second, ça dépend. Ou le 9 ou le 10.
Ça dépend peut-être de la distance, mais c'est plutôt Joris Second qui à présent tenait le but.
Là, ce sera complètement sur le côté droit pour cette tentative parisienne. Le biathlon, le relais dames avec la première séance de tir, mon cher Julien Richard.
Oui, c'est la première relais. C'est Lou Jean Monod qui s'installe sur le tapis numéro 2 avec juste à sa droite la Suède et à sa gauche l'Allemagne. Elle a fait le chemin en tête sur ce premier tour. Lou Jean Monod, ça tire plutôt pas mal pour le moment, même s'il y a déjà une erreur pour les Suédois. On rappelle, il y a énormément de vent, les courses ont même failli être annulées. C'est pas aussi pire qu'attendu. Le plein pour l'Allemagne, la France 4 sur 4, le plein pour les Françaises. Deux erreurs, attention pour la Suède qui est la seule équipe finalement à avoir pêché un petit peu sur ce premier tir. Sinon, c'était plutôt correct pour tout le monde. C'est la Finlande qui est en tête. Lou Jean Monod ressort à 2 secondes. Hein. Il y a un gros paquet là qui est ressorti du pâtir. Pas trop de dégâts sur ce premier tir couché.
Il y a moins de vent que ce matin, Julien, sur le pâtir.
C'est difficile à dire. En fait, ça, c'est pas rafale. Là, j'ai l'impression que c'est il y a beaucoup de vent, mais qu'il est un peu plus stable. Mais c'est ce qui est compliqué à gérer dans le vent, c'est pas forcément les
qui sont forts,
c'est qu'ils changent de sens sans arrêt. Et on a vu notamment chez les garçons que au moment où le deuxième relayeur Fabien Claude est arrivé, ça allait à peu près. Et quand les autres sont arrivés derrière, les Norvégiens notamment, bah, c'était plus compliqué à tirer. Donc c'est il faut être très 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 vigilant. En tout cas, ça c'est sûr derrière sa carabine aujourd'hui sur ces épreuves de relais.
On va pas s'en plaindre d'avoir tapé les Norvégiens. Que le vent éole se soit mis du côté de l'équipe de France tout à l'heure. On rappelle, hein, les Français, les relayeurs français, sacrés champions du monde devant la Norvège et devant Johannes Bö qui ne réalisera pas donc le grand chelem. Le foot, ce match entre les Girondins de Bordeaux, le Paris Football Club, Romain Asselin.
Ouais, quel dommage pour Bordeaux, cette déviation de la tête là, de Franck Sergio sur ce long ballon à destination de Badji. Là, cette remise de la tête et Badji est parti hors jeu. Hors jeu, 0-0 pour l'instant. Attention, Badji à nouveau dans ses œuvres qui tente le grand pot sur Bernauer. Le bon repli défensif du capitaine est bien aidé aussi par Jordan Lefort sur ce coup-là du côté parisien avec ce ballon maintenant pour le gardien. On va retrouver De Marconnet. Il est pressé, De Marconnet. La relance sera directement sur les pieds de Mwanga dans le rond central. 0-0 pour l'instant entre Bordeaux et Paris. Pas de grosse occasion pour l'instant. Il y a une situation sur corner pour les Parisiens il y a quelques minutes. Ça n'a pas pu être exploité malgré la montée des grands défenseurs centraux de cette équipe entraînée par Thierry Lauré. Peut-être un coup à faire là pour les Girondins avec ce ballon fuyant sur l'aile de Vital Nsimba qui était monté là, et du coup ce serait une sortie de but. 0-0 pour l'instant après 7 minutes et 40 secondes de jeu.
À tout à l'heure Romain, 15h08, le rugby. On a trouvé un commentateur de remplacement, mais alors de quel un niveau incroyable. Attends, on avait un commentateur basque ou béarnais, on a un commentateur maintenant parisien qui va nous commenter ce aviron bayonnais Stade Français. Morgan Maury qui récupère le match. Mais tu étais à la conférence de presse cette semaine du Stade Français, hein, Morgan?
Oui, alors, ça me légitime tout à fait. Bonjour à tous.
La transformation est passée, hein, pour le Stade Français.
Transformation de Joris Second. 9 minutes dans cette partie, le Stade Français mène 7-0 sur la pelouse de Bayonne. Bayonne 6e, qui n'a pas encore perdu cette année à la maison. C'est une place imprenable, Jean Daugé, en top 14. Bayonne qui mène la vie dure à beaucoup d'équipes. C'était le rêve pour ces Parisiens d'aller gagner à Bayonne. Ils ont beaucoup travaillé, notamment la conquête. C'est ce que disait Laurent Sampéré, le coach. Gros focus sur la conquête pour mettre à mal ces Bayonnais dans cette ambiance, je cite, hostile. Et pour l'instant, début parfaitement réussi des Parisiens. À l'instant, une pénalité pour les Bayonnais. Ils ont choisi de jouer la touche. Coup de sifflet de l'arbitre. Ça fait 9 minutes dans ce match. Sur sa pelouse, Bayonne est mené 7-0 par le Stade Français.
Mm-hmm. Pierre ?
Alors, je les sens un peu fébriles, hein, les Bayonnais, ce que je vois. Des petits en avant. normalement ne sont pas ils sont pas coutumiers du fait sur les entames de match à Bayonne, donc peut-être un peu la pression de justement de rester invaincu et
oui que tout le monde leur parle de ça régulièrement maintenant donc
c'est un autre statut à le talisman, c'est Morgan Parra face à Camille Lopez, ils ont joué tellement d'années ensemble
à Clermont, tu as raison.
Clermont ouais. Et qu'il a filé tous les conseils à ses coéquipiers du Stade français pour essayer d'empêcher.
Ah, c'est vrai que c'était une sacrée charrière. Hein, je ne sais pas combien de matchs de top 14 ensemble.
Quelques-uns, mais enfin, là, c'est vraiment plus une fébrilité générale que je sens côté Bayonnais. Au contraire, une prise d'initiative parisienne. On a vu un en avant, une touche pas droite. Voilà, des signes un peu de fragilité pour l'instant pour Bayonne, mais bon. Ils ont de la ressource aussi.
Ils ont encore un peu de temps. Du Stade français après 9 minutes, mais ils sont menés 7-0.
Voilà, 7-0 pour le Stade français. Le relais féminin, on va retrouver Julien Richard dans un instant pour la seconde séance de tir et 0-0 entre Bordeaux et le Paris Football Club. Il est 15h10, vous êtes sur RMC, c'est l'Intégral Sport et on revient dans un instant.
RMC, Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
15h13 sur RMC, l'intégral sport qui se poursuit avec nos trois directs, le biathlon, le rugby et le foot. On repart au biathlon à Oberhof pour le relais féminin, Julien.
Oui, avec un premier relais un peu compliqué pour la Française Lou Jean Monod. Alors c'est pas cata, mais elle a 24 secondes de retard à l'issue de son deuxième tir, tout simplement parce qu'elle a commis trois erreurs, mais derrière elle a réussi à mettre ses balles de pioche. On sait qu'il y a trois jokers, si l'on peut dire, en relais. On a droit à trois balles supplémentaires. Elle a réussi à les mettre, donc elle n'est pas allée tourner sur la note pénalité, ce qui aurait été grandement handicapant. Là c'est pas le cas, mais elle a donc 24 secondes de retard sur Lynn Persson, très très rapide sur les skis, la Suédoise devant l'Italie et l'Allemagne. Ça fait beaucoup de bruit ici à Oberhof dans la tribune. 23 500 spectateurs sous la pluie et dans le vent. Donc après le deuxième tir du premier relais, la France est en 7e position à 24 secondes de la tête.
Ok, bon, on espère que ça va remonter. Il y a un essai du côté de Jean
de David Tajouli. La frappe de David Tajouli qui passe à droite du poteau du Paris FC. Et du but.
Je te coupe, Romain, parce qu'il y a un essai pour l'aviron bayonnais.
Ouais, Facundo Bosch pour l'aviron bayonnais. C'est tout en force. Récupération d'un ballon après une touche pour l'aviron bayonnais dans les 22 mètres. Un maule. Le groupe est pénétrant qui avance. Et Facundo Bosch qui vient aplatir derrière la ligne d'essai du Stade français. Bayonnais mené 7-3. Les Bayonnais passent devant 8-7 en attendant la transformation.
Voilà la réaction bayonnaise qui ne s'est pas faite attendre bien longtemps, Pierre.
Ah, ils ont remis la marche avant. Hein, on dit souvent ça, qu'on a un peu déstabilisé. Voilà, il faut revenir au basique. Et ben là, un bon ballon porté, perforant, et avec Facundo Bosch qui finit dans l'embute des Parisiens, qui remet l'aviron bayonnais dans le bon sens.
7, on est à 7 partout et la transformation est passée ou pas encore ?
Non, il y a 8-7, hein. Christophe.
8-7.
Camille Lopez a passé une pénalité.
J'avais pas su.
Camille Lopez qui est pratiquement collé à la ligne de touche et qui prend son élan, son pied gauche, il enveloppe bien son ballon, ça passe entre les perches, 2 points supplémentaires pour Bayonne, 10 pour Bayonne, 7 pour le Stade.
Ah, il a toujours la vista, hein, Camille Lopez, le buteur de l'aviron. Ah,
c'est plus que la vista, hein. Comme des saisons, il est en grande forme et. Il n'est pas étranger aussi au bon résultat de l'aviron bayonnais, clairement.
Il y a quelques anciens, quelques vieux de la vieille du côté de l'aviron qui permettent au club de bien performer depuis le début de la saison. Romain, il y a eu donc une occasion de but. Hein. Tu nous le disais, je t'ai coupé parce qu'il y a eu un essai au même moment.
Ouais, c'était chaud. Hein. C'était chaud devant le but du PFC avec cette frappe à l'entrée de la surface. Un peu trop écrasée quand même de David Tajvili qui s'est mis sur son pied gauche. C'est passé à gauche du poteau des Parisiens qui ont failli réagir dans la foulée avec Alimani Gori qui est allé provoquer. En tout cas il ne l'a pas obtenu, mais il a voulu provoquer une faute à l'entrée de la surface de l'autre côté du terrain. Ah, ça manque de justesse hein, quand même des deux côtés pour l'instant. 0-0 à la 17e minute, une occasion dans ce match, cette frappe de David Tajvili, et là les Girondins qui mettent le pied sur le ballon avec le capitaine Yohan Barbe. Il n'a pas trop de solution avec Nsimba qui va mettre le ballon dans la boîte devant la surface parisienne. Ce sera récupéré par les hommes de Thierry Lauré. 0-0 à la 17e.
15h17 sur RMC, on va partir tout de suite pour la Côte d'Azur, Cannes-sur-Mer, magnifique hippodrome au bord de la mer. Dimitri Blanlet pour le quintet du jour. Salut Dimitri.
Exactement, salut Christophe, bonjour à tous. Il nous reste 800 mètres à parcourir dans le quintet. Nous sommes dans le dernier tournant et c'est le 13 Royal Wright qui a pris l'avantage dans cette épreuve. Deuxième position pour le 16 Into Fate qui vient dans son sillage, l'un des concurrents outsiders de cette épreuve. La troisième place pour le 2 côté corde, c'est Not So Silly. À l'extérieur, le 11 est en quatrième position. C'est Etion, les favoris sont pas encore aux avant-postes. L'entrée de la dernière ligne droite avec 500 mètres à parcourir. avec l'avantage pour le 13 Royal Rack qui est en commandement. Deuxième position pour Intofet, le 16 qui essaie de progresser alors que le 11 Etion est passé en troisième position, mais il est débordé par le 2 Not Silly qui vient à l'extérieur. Mais le 13 est toujours en tête dans cette épreuve à 300 mètres de l'arrivée avec Royal Wright qui a deux longueurs d'avance actuellement sur le 2 Not So Silly qui essaye de revenir et qui essaye de résister notamment tout à l'extérieur à la bonne fin de course du numéro 5 qui termine bien Ridwan. Mais c'est fait pour le numéro 13 Royal Wright qui va s'imposer dans cette épreuve, même si on termine vraiment très bien à l'extérieur avec un autre concurrent. Le trou a été fait dès l'entrée de la ligne droite avec Alexis Pouchin qui s'impose avec le numéro 13 Royal Wright dans ce quintet. On a eu plusieurs belles fins de course à l'extérieur, notamment celle du numéro 12 Namasté qu'on a quasiment pas vu du parcours et qui est venu aller chercher, il me semble, la deuxième place assez serrée finalement avec un autre concurrent. Donc le numéro 13 qui s'impose, Royal Wright. La deuxième place qui reviendra a priori au numéro 3, c'est Bellara devant le 12, et le 11 prendra la quatrième place devant le numéro 9. 13, 3, 12, 11 et 9, c'est l'arrivée provisoire du quintet, et 16€ en cause finale pour le vainqueur, le numéro 13. Rendez-vous Christophe dans une petite demi-heure pour vous parler des rapports de ce quintet. À tout à l'heure.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Dimitri. À tout à l'heure, 15h18. Nous revenons à nos directs sportifs, le rugby, le foot et le biathlon. Le rugby, on va commencer avec toi, Morgane. Le score a-t-il évolué entre l'Aviron Bayonnais et le Stade Français?
Le score a bougé. Le Stade Français est revenu à hauteur des Bayonnais grâce à une pénalité de Joris Segond légèrement sur la droite des poteaux, consécutif à un en avant Bayonnais. 10 partout, 19 minutes dans cette partie.
Voilà, les Bayonnais qui sont bien repris, hein. Tu le disais Pierre, ils ont eu un peu de mal à rentrer dans le match, mais là ils ont bien pris la direction des opérations.
Ouais, même si là il y a eu une occasion aussi d'essai là, qui arrive côté Bayonnais, effectivement, malgré le retour là, au score du Stade Français. Les Bayonnais qui sont rentrés dans le match avec 10 minutes de retard.
Et c'est Bayonnais annoncé par l'arbitre Monsieur Pradry qui a levé le bras. Nouvel essai pour les Bayonnais. Ils venaient d'encaisser 3 points et en 20 secondes, Christophe, ils ont traversé le terrain et sont venus se mettre sur la ligne d'en-but du Stade Français. Monsieur Pradry qui a levé la main et c'est en force encore une fois des Bayonnais. Il y a un joueur Bayonnais qui reste au sol, peut-être commotionné sur cette action. 15 pour Bayonne, 10 pour le Stade Français. Transformation à venir.
Je pense qu'il a pris un coup au visage en aplatissant, s'il a aplati, mais ouais, c'est pas sûr. Hein.
C'est pas évident qu'il ait aplati parce que peut-être que le ballon tombe tout seul dans l'angle.
J'ai l'impression qu'il perd le contrôle du ballon.
La balle. Ouais.
Il est plaqué par Abel Köffner, le troisième ligne du Stade Français. Ballon est calé sous le bras droit, mais peut-être que le ballon a glissé sous le bras du joueur de Bayonne.
Surtout qu'il est derrière la ligne en plus. Le ballon est aplati, me semble-t-il, derrière. Enfin, juste devant la ligne d'en-but du Stade Français. Que va dire l'arbitre? On va avoir la réponse dans quelques instants. Il a l'air d'hésiter. Tiens, en attendant de connaître la décision, sachez que Tadej Pogacar a remporté sa 4e course en 5 jours de course depuis le début de la saison. Il est tout simplement inarrêtable. Il s'est imposé aujourd'hui lors de la 4e étape de la Ruta del Sol, la Tour d'Andalousie. Donc il a déjà remporté 3 des 4 étapes de cette épreuve. On parlera d'ailleurs dans notre podcast Grand Plateau lundi de Pogacar. Est-il redevenu invincible et va-t-il tout rafler cette saison? On parlera de son programme, on parlera de ses équipiers, on parlera aussi de ses adversaires. Ce sera lundi dans le podcast Grand Plateau avec Cyril Guimard, Arnaud Souk et Pierre-Yves Leroux. 15h21, le biathlon, Julien Richard. Où en est-on de cette course féminine? Les Françaises tout à l'heure n'avaient fait pas un premier relais extraordinaire. Hein.
Pas ouf, mais la casse est limitée et plus que ça, même elle a fait du bon boulot. Lou Jean Monod qui a eu des difficultés sur son tir debout, première relayeuse française, 3 erreurs, mais elle a mis les balles de pioche et elle a donné le relais à Anaïs Chevalier, à Chloé Chevalier, pardon, c'est la petite sœur, en deuxième position, avec 14 secondes de retard sur la Suède, donc rien vraiment de aucun gros écart, hein, c'est rien du tout, 14 secondes surtout dans ces conditions avec de la pluie qui redouble là et du vent. Donc la deuxième relayeuse, je vous le disais, c'est Anaïs Chevalier-Boucher, je me mélange avec les chevaliers, c'est la grande sœur, et la petite sœur partira en troisième position, et Julia Simon pour terminer ce relais. Voilà pour la compo française. Le premier tir de Anaïs Chevalier-Boucher, ce sera dans quelques instants maintenant.
Bon, tu nous appelles et on reviendra.
Elle est revenue, elle est à 6 secondes, elle est à 6 secondes maintenant de la Suédoise Magnusson, donc elle revient bien sur les skis dans sa première boucle.
Magnifique, on espère évidemment qu'elle ne va pas se foirer au tir. À tout de suite avec toi Julien. Le foot, Bordeaux reçoit le Paris Football Club, c'est à Bordeaux que ça se passe, Romain.
La 22e minute, toujours 0-0 pour l'instant. Une seule occasion à se mettre sous la dent avec cette frappe tout à l'heure au cadre de jeu de David Tachvili côté Girondin. C'est passé de peu à droite du but gardé par Vincent de Marconnet. Les Parisiens qui ont le pied sur le ballon avec Maxime Bernauer qui va tenter d'alerter là de l'autre côté Alimani Gori. C'est bien joué, sauf que le contrôle est un peu raté et il y aura une touche pour les hommes de Thierry Loret qui, on le rappelle, ont un bilan excellent loin de Charletti où ils patinent. Où la pelouse patine, on en a parlé avec Pierre aussi tout à l'heure, mais ils sont deuxième meilleur bilan à l'extérieur pour les hommes de Thierry Loret qui ont gagné 5 fois loin de leur base depuis le début de la saison de Ligue 2, mais qui sont dans le ventre mou du classement avec 5 points d'avance sur la zone de relégation, mais un match en retard, celui qui avait été reporté la semaine dernière face à Amiens qui a été reprogrammé début mars. Les Girondins maintenant avec Francière Joua, ça manque de vitesse.
Je vais te couper Romain parce qu'on va repartir à Jean Daugé. On était dans l'expectative de savoir si l'essai Bayonnais allait être accordé. Finalement, il ne l'est pas, Morgan.
Non, l'essai de Cormenier a été refusé. L'arbitre avait pourtant levé le bras. La vidéo a joint M. Pradry. L'arbitre, le bras a glissé sous le ballon a glissé sous le bras de Cormenier et c'est refusé. Bayonne et le Stade français ont égalité 10 partout, 20e minute. Le Stade français a pu se dégager de son camp.
Décision logique, mais on a vu que l'arbitre a mis du temps quand même.
Il a mis du temps parce que c'est contre-intuitif. Lui, il siffle l'essai sur le terrain puisqu'il voit le ballon aplati. Mais effectivement, le joueur bayonnais a perdu le contrôle du ballon. Donc logiquement, l'essai est refusé. Mais les Bayonnais sont déjà revenus dans les 22 mètres parisiens.
Voilà, gros temps fort des Bayonnais. Pour l'instant, égalité parfaite entre les deux formations. 10 partout. Retour à Obarov pour la première séance de tir du deuxième.
Oh, le but du Girondin ! Malcolm Bokele ! Sur ce centre de la surface de réparation de Vital Nsimba qui avait été bien décalé et Malcolm Bokele qui surgit au deuxième poteau sur ce premier tir cadré de la partie pour ouvrir le score en faveur des Girondins de Bordeaux. Ça fait 1-0 face au Paris Football Club et c'est le deuxième but de la saison pour Malcolm Bokele. 1-0 pour Bordeaux.
Le magnifique but bordelais. La séance de tir à Oberhof, Julien Richard.
Également pour la Française, Anaïs Chevalier-Boucher, le plat qui va repartir en tête alors que la Suède et la Norvège qui étaient arrivées avec elle sur le pâtir eh bien, ont commis une erreur, une balle de pioche. Est-ce qu'elles vont la mettre? La Suède c'est bon, la Norvège c'est bon, les Allemandes sont en train de galérer là sur le pâtir avec Anna Kebinger qui va perdre des secondes précieuses. Après le premier tir du deuxième relais, la France est en tête, Anaïs Chevalier-Boucher ressortie avec 5 secondes d'avance sur l'Italie de Dorothea Wirer qui avait une petite chute là il y a quelques instants avant d'arriver sur le pâtir. Et 7 secondes sur la Suédoise Magnusson, 9 secondes sur la Norvège. Rien ne fait, mais les Français sont bien.
Sacré relais d'Anaïs hein, qui a repris du temps et qui en plus au tir a tiré à une vitesse hallucinante hein.
Exactement, sachant qu'elle a fait des gros efforts sur la piste à mon avis pour recoller au leader. Donc voilà, il faut maintenant qu'elle gère son effort, elle est avec toutes les meilleures pour ne pas arriver cramée. C'est aussi souvent ça hein, le souci sur le tir debout où il y a du vent et où la carabine bouge énormément.
Alors on rappelle dans le relais, c'est 4 jeunes femmes qui prennent chacun leur tour les skis et la carabine. C'est deux tirs, un tir debout et un tir couché pour chacune d'entre elles. Et là, on n'est pas encore à mi-course. Hein. Il reste encore du temps et il restera notamment tout à l'heure notre grande championne actuelle, Julia Simon, qui partira en dernier relayeuse.
Ouais, il y aura un sacré dernier relais parce que donc Julia Simon, la championne du monde de la poursuite en dernier. Anna Heuberg pour les Suédois, championne du monde de l'individuel. Denise Hermann-Wick pour les Allemandes, championne du monde du sprint. Et Martholz-Bourg-Oiseland pour la Norvège, championne du monde avec le relais mix, notamment il y a deux jours avec Johannes Bø.
Ça va être énorme. On espère qu'on va se régaler et que nos Françaises vont faire aussi bien que nos Français, on rappelle, sacré champion du monde en relais tout à l'heure devant les invincibles norvégiens. 15h26 sur RMC, retour à Jean Daugé. Le score n'a pas bougé pour l'instant, Morgan, mais c'est vrai que les Bayonnais quand même semblent dominer la partie. Hein.
Oui, Bayonne a l'avantage, notamment en conquête. Les touches, ils sont royaux en touche, les joueurs de Grégory Pata. Ils prennent facilement tous les ballons de conquête. Bayonne 10, Stade Français 10. 23e minute dans cette partie, un essai partout. C'est Eric Goyen, l'ancien Biarro, qui a marqué le premier essai pour le Stade Français. Essai de Facundo Bosch pour les Bayonnais. 10 partout, 23e minute.
Ouais, Pierre, ton avis sur ce match assez équilibré, même si les Bayonnais ont quand même poussé une bonne accélération il y a quelques minutes. Hein.
Bah, écoute, meilleur début dans le terme de match des Parisiens, mais effectivement, les Bayonnais sont revenus rapidement et ils semblent prendre un peu. l'ascendant. Voilà, même si là on est en train de regarder une faute potentielle de Michael Ivaldi qui n'aurait pas engagé son bras sur le plaquage. Mais bon, pour l'instant, parité au score, une période de domination chacune sur les 22 premières minutes. Donc voilà, tout reste à faire pour les deux équipes.
Exactement, il reste encore pas mal de temps dans cette première mi-temps. Il y a ensuite 40 minutes encore à jouer, 15h27, le foot est donc l'ouverture du score en faveur des Girondins de Bordeaux face au Paris Football Club.
1-0 pour Bordeaux suite à ce but de Malcolm Bokele à la 25e. Oh, que ça avait bien combiné à l'entrée de la surface de réparation avec ce 1-2 entre Nsimba et Badiou qui a été préféré au meilleur buteur girondin, Josh Maja, à la pointe de l'attaque. Et bien, il a bien fait pour l'instant, David Guillon. Ça lui donne raison puisqu'il a remis à Nsimba qui derrière a offert un caviar à Bokele pour le premier but de cette partie sur le premier tir cadré. 1-0 pour Bordeaux qui depuis appuie un peu sur l'accélérateur, ça joue au petit trot et ce but qui a réveillé déjà les supporters ultra. Alors, il n'y a pas grand monde dans le stade cet après-midi, mais il a aussi réveillé les 11 Girondins alignés d'entrée là par David Guillon avec ce ballon pour Barbet. On va revenir dans le rond central, les 11 Parisiens qui sont dans leur moitié de terrain pour l'instant, même si ça vient presser là un peu sur Barbet. 1-0 pour l'instant pour Bordeaux avec ce but de Malcolm Bokele à la 25e.
Et tous les autres matchs de cette journée de Ligue 2, vous pourrez les suivre évidemment tout à l'heure dans le multiplex de Benoît Boutron. Ce sera aux alentours de 19h. 15h28, le biathlon. Anaïs Chevalier toujours en tête, Julien?
Anaïs Chevalier est toujours en tête et mieux que ça, elle creuse un tout petit peu l'écart. C'est assez fort ce qu'elle est en train de faire sur ses concurrentes puisqu'elle a désormais 11 secondes d'avance sur Ingrid Tendrevold, la norvégienne, 12 secondes sur Anna Magnusson, la suédoise, et Dorothea Virard est à 13 secondes. Donc elle est seule en tête avec un peloton, un gros peloton avec un très gros niveau à ses trousses, mais sur les skis ça a l'air de très bien aller pour Anaïs Chevalier-Boucher qui est dans le haut de la dernière petite difficulté avant de plonger vers le stade.
Voilà, donc tir debout à suivre pour Anaïs Chevalier, et ensuite une petite boucle, elle passera le relais à sa sœur Chloé Chevalier, troisième et avant-dernière relayeuse avant que Julia Simon ne termine le boulot un peu plus tard. Le rugby, l'évolution du score avec 3 points supplémentaires pour l'Aviron.
Et la botte de Camille Lopez, une pénalité sur la gauche des perches, 3 points supplémentaires pour les Basques qui mènent 13-10 face au Stade Français. 25 minutes dans cette partie.
25 minutes dans cette partie, voilà, c'est assez équilibré, Pierre, mais les baïonnés par la botte de Camille Lopez ne ratent pas une occasion d'engranger des points.
Ouais, conforme à la physionomie du match, avec les périodes de domination reprises par les baïonnés, et là, la concrétisation de Camille Lopez qui s'appuie sur les quelques erreurs parisiennes, notamment, manque un petit peu de discipline, pour se replacer en défense et la sanctionner après en hors-jeu. Évidemment, Camille Lopez qui appuie et qui donne l'avantage aux baïonnés.
Le biathlon, la séance de tir debout pour Anaïs Chevalier. Julien.
Allez, juste avant la mi-course, donc, c'est la deuxième relayeuse, Anaïs Chevalier-Boucher, l'expérimentée de cette équipe, vice-championne olympique, notamment sur l'individuel à Pékin, qui va s'installer donc tapis numéro 1. Elle est seule en tête, elle a accru encore son avance il y a 18 secondes.
Il y a un peu de zèf.
Il n'y a pas qu'un peu, il y a énormément devant. Reste à savoir s'il est stable. D'ailleurs, la première est ratée pour Anaïs Chevalier-Boucher, elle est arrivée avec 20 secondes d'avance quasiment sur ses rivales. La deuxième, c'est bon. La troisième, c'est bon. Je peux vous dire qu'elle bétonne, elle prend son temps. Elle assure, Anaïs Chevalier-Boucher. C'est la première, la dernière. Aïe. Le petit rictus d'Anaïs, là, elle a maintenant 2 balles de réserve. Pendant ce temps-là, on a la Norvège, la Suède et l'Italie qui arrivent et qui sont en train d'armer leurs carabines pour tirer leur première balle. Il n'y a plus le droit à l'erreur maintenant. La balle de pioche, la première est ratée. Une erreur pour la Norvège, une erreur pour la Suède, 2 erreurs pour la Norvège. Pas d'erreur pour l'Italie, pour Dorothea Virard. Évidemment, si la dernière est dehors. La deuxième balle de pioche d'Anaïs, c'est bon. Allez, il y en a une seule à blanchir et ce sera bon pour Anaïs. Sinon, c'est un atout de pénalité et je la vois pas la simulation. Bah, visiblement elle est ratée. On va voir si elle va tourner sur la note de pénalité Anaïs Chevalier parce que la simulation a complètement raté alors que la Norvège est en naufrage complet. Oui, voilà, Anaïs Chevalier, une erreur, un tour de pénalité. L'Italie est seule en tête désormais, la Suède encore sur le pas de tir. C'est extrêmement compliqué de tirer dans ces conditions. 3 tours de pénalité pour la Norvège, 2 tours de pénalité pour la Suède alors que l'Allemagne arrive à son tour sur le pas de tir. L'Italie grande gagnante de ce deuxième relais avec Dorothea Virard donc qui est seule en tête et je vais te donner l'écart maintenant avec Anaïs Chevalier-Boucher qui ressort à l'instant du tour de pénalité. 26 secondes de retard pour la Française sur l'Italienne et l'Allemagne va arriver très vite derrière elle puisque l'Allemande a fait le plein Et donc ça nous donnera Italie-France-Allemagne.
Penalty en faveur du Girondin de Bordeaux, Romain.
Ouais, on est tout proche du 2-0, Christophe, avec Vital Nsimba, celui qui avait fait la passe décisive sur le premier but de Girondin, qui a fait danser Corée, qui lui a fait commettre une faute. C'est parti pour Barbet. Et le but de Girondin, 2-0, Johan Barbet, le capitaine, qui a lui-même transformé ce penalty. Il a tiré plein axe. C'est pas super bien tiré, franchement. Mais le gardien a été pris limite à contre-pied. Il a pas trop bougé. En tout cas, ça fait 2-0 pour Bordeaux. Attention quand même. On a déjà vu les Girondins mener ces dernières semaines au score 1-0, 2-0 et se faire rejoindre. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même bien parti pour les hommes de David Guillon.
On va pas non plus en demander trop. 2-0 après combien? Ça fait combien de temps qu'on joue? Une grosse demi-heure.
Ça fait 33 minutes.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Merci Romain. À tout à l'heure. Le temps, le score à Jean Daugé, Morgane Maury entre les Parisiens et les Bayonnais.
28e minute. Bayonne est toujours devant. 13-10.
13-10. Il est 15h33. On revient dans un instant. Les Françaises en biathlon, malheureusement, se sont un peu ratées là sur la séance de tir debout. Elles ne sont plus que deuxièmes à une grosse vingtaine de secondes derrière les Italiennes. Le suspense est entier. Il reste encore la moitié de la course à parcourir. On va vivre ça avec Julien Richard. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
h 35, vous êtes sur RMC. Nos trois directs, pour l'instant, tiennent toutes leurs promesses. Le biathlon, le rugby et le foot. On fait un petit tour des terrains. Bordeaux, Paris Football Club, le temps, le score, Romain.
2-0 à la 35e avec des buts marqués par Bokele et puis par Barbet sur penalty.
Le rugby, c'est l'aviron bayonnais Stade Français, Morgane Maury.
Les 10 dernières minutes de la première période, Bayonne est devant face au Stade Français, 13-10.
Et puis donc le biathlon, nous allons atteindre la mi-course dans quelques instants. Julien Richard, les Françaises ne sont plus en tête, mais elles n'ont pas abandonné l'idée d'aller décrocher une médaille d'or tout à l'heure.
Ah, loin de là, Anaïs Chevalier-Boucher, deuxième relayeuse française après le passage de Lou Jean Monod, est en deuxième position à 22 secondes de l'italienne Dorothea Vireur. Anaïs Chevalier-Boucher qui va donner le relais à sa petite sœur Chloé, troisième relayeuse avant donc Julia Simon pour terminer le relais français.
S'il y a un maillon faible dans cette équipe, c'est qui?
C'est difficile à dire parce qu'elles sont toutes cette saison, je te disais, montées sur un podium. Lou Jean Monod a été en difficulté sur le relais mixte simple il y a deux jours, donc on avait des doutes sur la confiance, mais franchement sinon elles sont toutes en confiance, les Françaises, rapides sur les skis, ça c'est important. Et puis derrière la carabine, c'est là où peut-être pour Chloé on se verra notamment le tir debout qui est parfois peut être compliqué, mais c'est surtout dans ces conditions là les conditions météo, on le rappelle, énormément de pluie, énormément de vent, c'est très 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 difficile à tirer. On l'a vu avec les Norvégiennes qui sont allées tourner trois fois sur la note pénalité, les Suédoises deux fois, donc il y a des dégâts, ça peut faire des gros dégâts. Allez, en direct, le passage, voilà, la grande sœur qui va toujours toucher le coude
les biathlètes
de la petite
italienne.
Ah bon? Je ne sais pas de qui tu veux parler. Effectivement, Dorothea Vireur qui a donné le relais à qui? À Anna Oschenthaler. Donc voilà pour le relais italien. Et la France en deuxième position. L'écart, il s'est réduit. 21 secondes, c'était 20, un peu plus de 25 après le dernier tir. Donc Chloé Chevalier en piste pour la France.
Voilà, les deux frangines qui se passent le relais. Troisième relais dans ce relais féminin à Oberhof, l'avant-dernière journée des championnats du monde. On rappelle qu'il y aura deux épreuves magiques demain à disputer les mass starts féminines et masculines. Morgane.
Oui, l'aviron bayonnais qui est à 2 mètres de la ligne du Stade Français. Mais coup de sifflet de Monsieur Pradery. Tout est parti d'une pénalité jouée à la main rapidement par Rouet. Une petite course du malin demi-mêlée bayonnais qui est entré dans les 22, puis du jeu à une passe avec les gros musclés de l'aviron bayonnais. À l'instant, pénalité sifflée contre le Stade Français. 33e minute, Bayonne 13, Stade Français 10.
Rien n'est encore fait dans ce match, mais bon, les Bayonnais imposent un sacré défi physique aux Parisiens.
Et notamment sur le paquet d'avant, on voit beaucoup de jeux à zéro passe, en fait, beaucoup de pick and go, ouais. Et de l'efficacité sur le nettoyage et sur les rucks des Bayonnais qui leur permet de garder une avancée qui devrait être logiquement concrétisée par Camille Lopez, mais. Morgane a cru qu'elle allait avoir essayé, je l'ai vu. Tu vois, elle a cru qu'elle avait essayé. Ouais. Mais non, il y a eu en avant. Donc, mais pour l'instant, remarquable le travail mis en place par le pack bayonnais qui a mis 10 minutes pour allumer la machine. Mais pour l'instant, ils font vraiment un gros boulot et c'est devant pour l'instant que les bayonnais prennent l'ascendant.
Et on comprend mieux pourquoi cette équipe est pour le moment invincible à la maison. Elle met un gros rythme de jeu à ses adversaires et poussée par le public de Jean Daugé qui pousse vraiment derrière son équipe. La pénalité de Camille Lopez.
Ouais, légèrement sur la droite des poteaux. 3 sur 3 pour l'instant pour l'ouvreur de Bayonne avec sa patte gauche. 4 sur 4, 3 points supplémentaires. 16-10 pour Bayonne face au Stade Français dans les dernières minutes avant la fin de la première période.
Merci Morgane. Le foot, ça se passe au Matmut Atlantique de Bordeaux. Les Girondins pour l'instant font cavalier seul face au Paris Football Club, Romain Asselin.
Ah, tu fais bien de le dire, hein. On était tout près du 3-0 à l'instant avec encore une bonne combinaison côté gauche. Ça a centré en retrait dans la surface, un peu dans le dos de Badji qui n'a pas pu reprendre. C'est Ignatenko qui a pu se mettre en position de frappe dans la foulée. Ça a été repoussé par un défenseur devant sa ligne. Et il joue à l'envers, hein. Les Parisiens, à l'image de là encore de Pierry qui a raté une passe, mais tellement facile. Ils sont dans le dur, eux qui ont d'ailleurs la pire attaque de Ligue 2, 18 buts marqués seulement par les hommes de Thierry Leroy depuis le début de la saison. Et attention, hein, parce que si tu perds cet après-midi à Bordeaux, tu restes encore en danger et tu vas certainement peut-être jouer le maintien jusqu'au bout. On rappelle qu'ils ont 5 points, hein, un sas de sécurité de 5 points, un match en retard, mais ils sont en train de s'enfoncer les Parisiens, parce que ça fait plusieurs matchs que c'est compliqué, très compliqué. Et là, Bordeaux qui a failli récupérer un bon ballon également dans le camp parisien. 2-0 pour l'instant, but inscrit dans le jeu par Bokele et sur pénalty par Johan Barbet. Pour l'instant, ils sont tranquilles, les Girondins.
15h40 sur RMC, retour à Oberhof. Est-ce que Chevalier grignote sur l'italienne, Julien?
Oui, elle grignote sur Ocean Thaler. Elle était partie avec 21 secondes, elle en a plus que 16 de retard et elle va arriver là au prochain point intermédiaire. On va voir si ça continue de grignoter du temps. Dernier point intermédiaire avant le premier tiers de ce troisième relais. 13 secondes de retard désormais. Donc voilà, petit à petit, elle fait son retard et surtout, il y a un peu d'avance sur les autres nations. Hein. Elle a 38 secondes, une quarantaine de secondes d'avance sur l'Allemagne. 50 secondes sur Elvira Oberg pour la Suède et Marketa Davidova pardon, pour la République tchèque à 58 secondes. Voilà pour les positions après 13 km parcourus dans le troisième relais.
Mais on le sait, dans ces épreuves de biathlon, notamment en relais, tout peut changer d'un tir à l'autre. Hein. C'est ça qui est incroyable.
Et surtout, on le répète, mais avec ces conditions météo qui sont vraiment apocalyptiques. Et franchement, bravo aux 23 500 spectateurs. Parce que tout à l'heure, on est resté quoi, une demi-heure dehors pour les réactions des garçons et on était trempés.
Il y a eu du brouillard pendant toute la semaine. Là, maintenant, il y a du vent. C'est sympa, Oberhof. C'était un bel endroit.
Très sympa.
Pour aller
non, mais il faut quand même rendre à Oberhof ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même du soleil. On l'a vu 2-3 jours, ce qui est déjà assez miraculeux. Mais effectivement, c'est
une cuvette où il y a du brouillard. Il y a des gens qui vont en vacances là-bas, vraiment
Eh bien, figure-toi. Alors, pas ici à Oberhof, mais dans la région, oui. Ce qui est assez surprenant aussi. Non, mais après, voilà, il y a des installations exceptionnelles.
C'est le temple du biathlon.
Il y a un tunnel couvert. Alors ça, c'est d'un autre temps, mais un tunnel réfrigéré pour skier l'été même. Piste de bobsleigh. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même.
Ah ouais, ils sont obligés de faire ça parce qu'ils peuvent pas compter sur la météo florissante. À tout de suite, Julien, pour le tir couché donc de Chloé Chevalier qui ne va pas tarder et qui grignote sans retard sur Eugen Thaler, l'italienne qui est en tête. Le rugby, on y retourne à Jean Daugé avec toi, Morgane Morin.
Et encore des points échappés par le Stade Français au pied. La mêlée bayonnaise n'a pas poussé dans l'axe. Cormenet a été pénalisé. Donc pénalité pour Joris Second sur la ligne des 50 mètres et deuxième échec au pied pour l'ouvreur du Stade Français. 2 sur 4 sur lui. Et ça fait que Paris est toujours mené. 16 pour Bayonne, 10 pour le Stade Français. Il reste 4 minutes dans cette première période.
C'est Joris Second qui est titulaire, buteur titulaire. Hein. Morgan Parra, on peut aussi le faire. On rappelle qu'il a quand même été longtemps buteur, même si à Clermont, il était aussi barré par Lopez. Mais bon, c'est quand même un sacré buteur, Morgan Parra.
Bien sûr, mais je crois que tu me crois pas, en fait, quand je te dis les trucs, je te l'ai dit tout à l'heure, que c'était Joris Second qui butait, mais.
Mais bon, voilà, deux échecs.
Il pourrait effectivement tourner. Mais je crois pas que c'est ce qui est prévu. Il y a aussi Léo Barré qui bute pour le Stade Français. Donc ils ont des options. Et jusqu'à présent, Joris Second, et notamment de loin, même si là il l'a raté, était une assurance certaine pour le Stade Français. Et aujourd'hui, effectivement, c'est le deuxième qui rate. Donc à voir dans l'évolution. Et je pense qu'effectivement, si il y en a encore une troisième, ils vont peut-être changer de buteur.
Léo Barré, dont tu me parlais tout à l'heure, qui est l'une des pépites du rugby français, il a 20 ans à peine, mais habituellement il est plutôt demi d'ouverture au centre. Là, il joue à l'arrière, on le sent pas vraiment sur. On va d'abord au biathlon parce qu'il y a la séance de tir couché de Chloé Chevalier, Julien.
Ouais, Chloé Chevalier qui est arrivée avec l'italienne, hein, alors qu'elle était partie avec 20 secondes de retard quasiment. 2 sur 2 pour Chloé Chevalier. Une erreur malheureusement, 2 erreurs, double faute là pour la française. Allez, faut mettre la dernière pour pas se mettre le feu. Alors que l'italienne repart, Chloé, elle, a commis 3 erreurs et n'a donc plus le droit justement à l'erreur. L'Italie en tête, la France en galère sur le pas de tir. Allez, la première balle de pioche est bonne. Pendant ce temps, l'Allemagne et la Suède sont arrivées sur le pas de tir. Deuxième balle de pioche pour Chloé. Si c'est une erreur, c'est un tour de pénalité, c'est 20 grosses secondes de perdu, donc faut plus commettre d'erreur là pour la française qui tarde à la tirer cette balle. Voilà qui est fait. Pendant ce temps, l'Allemagne a commis une seule erreur mais a terminé son tir. Allez, la dernière balle, pour l'instant c'est tout bon pour Chloé, en tout cas qui limite les dégâts. L'Allemagne repart en deuxième position, la France en troisième position. Et ben on souffle parce que c'était très mal embarqué cette histoire, mais ça replace toutes les concurrentes dans le coup, hein, et notamment l'Allemagne et la Suède, puisque Elvira Auberg blanchit à son tour ses 5 cibles et va repartir en quatrième position. Je vous donne les positions après donc le premier tir de ce troisième relais. Ocean Thaler, donc l'italienne, est en tête avec 31 secondes d'avance sur Schneider, l'allemande. Chloé Chevalier en troisième position à 34 secondes. Davidova, la tchèque, à quatrième en 39 secondes. Et Elvira Auberg, la petite sœur, à 44 secondes. Ça s'est fortement rapproché tout ça.
Ouais, dommage pour Chloé qui s'est ratée là sur le tir couché, même s'il n'y a pas eu de tour de pénalité. Mais évidemment, quand tu fais 3 tirs supplémentaires, aller rechercher la balle, réarmer et tirer, bah tu perds beaucoup de temps. Elle était revenue à hauteur de l'italienne. Et là, eh bien, elle reprend un tir. Elle est à 35 secondes derrière Anna Hogenthaler, donc l'italienne, même si son nom ne l'indique pas, en tête de ce relais féminin. 15h45, le foot. On va à cela, on approche de la mi-temps à Bordeaux.
Ouais, il reste bien une minute avant le temps additionnel de cette première période. Et quelle intervention là de Malcolm Bokele, l'auteur du premier but girondin dans cette partie. On rappelle que Bordeaux mène 2-0. Il y aura une minute de temps additionnel dans cette première période, but de Bokele et ensuite but sur pénalty à la demi-heure de jeu de Johan Barbet. Les Parisiens qui tentent de réagir en mettant un peu plus de vitesse, un peu plus de contact aussi dans cette fin de première mi-temps. Et pour l'instant, ils sont impériaux en défense, les Girondins, avec Bokele, je vous le disais à l'instant, un énorme tacle aussi de Johan Barbet il y a quelques instants devant Raled Boutaïb. Et c'est compliqué pour Paris qui a eu une occasion, mais on peut pas dire qu'elle soit franche, avec une tête justement de Boutaïb directement dans les gants tranquillement de Gaëtan Poussin. 2-0 pour l'instant pour Bordeaux, les dernières secondes de jeu de cette première période.
15h46 sur RMC, les dernières secondes également à Jean Daugé. Reste combien de temps? On est au-delà du temps réglementaire, on est dans le rouge déjà, mon cher Morgan.
Oui, la 41e minute, ça n'existe pas, les derniers instants, ballon, munition pour le Stade français. L'arbitre avait laissé l'avantage. Qu'est-ce que Joris Segond va faire? Est-ce qu'il va tenter d'aller marquer 3 points ou aller chercher pourquoi pas une pénale touche pour terminer cette partie? Lester Etienne, son ailier est en train de se faire soigner. On choisit la pénalité, 16-10 pour Bayonne face au Stade français. La dernière action de cette partie, ce sera une pénalité pratiquement collée à la ligne de touche sur le côté gauche pour le pied de Joris Segond. Il a déjà raté 2 coups de pied sur les 4 qu'il a tenté aujourd'hui, l'ouvreur du Stade français. Il réajuste son maillot pour aller ramener son équipe à 3 points de Bayonne avant le retour au vestiaire. Et il débute sa prise de position, Joris Segond. Il recule les petits pas chassés, les petits sauts, le regard vers les perches avant de tenter cette pénalité. 16 pour Bayonne, 10 pour le Stade français. Le 5e coup de pied de Joris Segond, est-ce qu'il va passer? Il est pratiquement collé à la ligne de touche pour 3 points supplémentaires en faveur du Stade français. La prise d'élan pour Joris Segond avec sa patte droite, le ballon qui s'élève, qui passe entre les perches. On tourne à la mi-temps, 16-13 pour Bayonne face au Stade
Pierre
français.
Pierre Abadon me l'avait dit, ça va passer, hein Pierrot?
Tu l'as menacé. T'avais pas confiance. Donc voilà, il t'a répondu. Non, c'est un très bon buteur. Et c'est vrai qu'il en a raté 2 qui étaient dans ses cordes. Mais voilà, ça remet un petit peu le Stade français qui a quand même eu du mal sur la deuxième partie de la première mi-temps. Et c'est pas cher payé pour les Parisiens. Et les Bayonnais vont peut-être avoir quelques regrets, ou en tout cas se faire un peu recadrer à la mi-temps.
Et oui, parce qu'ils n'ont pas fait l'écart face aux Parisiens, alors qu'ils ont dominé quand même cette première mi-temps. C'est terminé également les 45 premières minutes au Matmut Atlantique, où les Girondins de Bordeaux mènent 2-0 face à Paris. Romain Asselin.
Ouais, ça se passe bien pour ces Girondins, portés par un Vital Nsimba de Gala, le latéral gauche, qui est venu d'abord sur le premier but, combiné avec Aliou Badji, le 1-2, et le centre derrière un caviar pour Bokele sur le premier but. Et c'est lui, Nsimba, qui provoque le pénalty
quelques minutes plus tard en se déjouant de courir plusieurs dribbles en entrant dans la surface de réparation. Pénalty transformé par le capitaine Yoann Barbet. 2-0 pour les Girondins qui sont à leur main pour l'instant sur leur pelouse du Matmut.
Ok, le biathlon, c'est vrai que Corée Chevalier a du mal au tir, mais alors sur les skis, c'est un avion, hein,
ouais.
Julien.
Oui, ouais, elle est très rapide. Elle a rattrapé évidemment l'Allemande et puis elles sont en train de grignoter du retard sur l'Italienne Ojentaler qui est clairement le maillon faible justement de l'équipe transalpine, alors qu'il y a une skieuse là qui a perdu un ski, c'est la Finlandaise. Tiens, ça va pas être évident dans la descente en plus pour terminer. Bref, tout ça pour dire qu'elle a 22 secondes Chloé Chevalier de retard et elle skie avec l'Allemande Schneider et Marketa Davidova aussi, la Tchèque, qui est très 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 rapide, qui est un peu derrière. Elvira Öberg aux trousses de ce trio là à 36 secondes. Les Norvégiennes sont revenues à 50 secondes alors qu'on va arriver sur le dernier tiers de ce troisième relais dans quelques instants maintenant, et que l'on voit la pauvre, ils la mettent plein écran.
Elle a perdu l'image, son galère. Ski qui s'est barré, mais alors au bout de la piste pour la...
Au bout de la piste, ouais. je pense qu'il est de l'autre côté de l'Allemagne son ski, et malheureusement dans la descente c'est évidemment
pas simple. Il n'y a pas de stop ski sur les skis de fond, c'est ça le problème.
Il n'y a pas de
stop ski.
Oui, non plus. Il n'y a pas de car, il y a pas de. Oui, c'est un peu. On est un peu comme sur des œufs. Allez, on se reconcentre sur la piste et sur la grande tribune d'Oberhof là qui acclame l'arrivée de l'Italienne Schentaler, qui doit avoir un petit peu la pression quand même, hein, parce que là elle est en première position et là derrière elle l'Allemagne, la France et la République Tchèque. La Suède n'est pas loin non plus. Et si elle veut transmettre le relais à Lisa Vitozzi, la dernière relayeuse qui est en pleine forme ici sur ces championnats du monde dans de bonnes conditions, eh bien faut qu'elle assure, qu'elle fasse le job. On le rappelle, dans des conditions dantesques ici. Tout le monde a le KOE, hein, clairement. Et pour les biathlètes, il n'y a pas de protège carabine pour le vent. Et malheureusement, le vent, il tourbillonne par rafale, par moment, ici sur ce pâtir à Oberhof. Et ça, c'est pas évident, notamment sur le tir debout. C'est le deuxième tir du troisième relais. Chloé Chevalier est en train de s'installer à son tour. Là, l'Italienne tire très bien. Hein, elle a fait le plein tout à l'heure. Et pour l'instant, on en est à 2 sur 2. France, Allemagne, République Tchèque derrière pour déclencher la première balle. Une erreur pour l'Italienne. Quatrième balle blanchie par l'Italienne. Cinquième balle, c'est bon pour l'instant. Chloé Chevalier, c'est très bien. 2 sur 2. La troisième, elle tarde à la lâcher, mais elle part. C'est bien. L'Italie repart en tête. Une erreur, la première pour Chloé Chevalier, mais l'Allemagne et la République tchèque ont également commis des erreurs. Hein. 2 pour l'Allemagne, 1 pour la République tchèque. Alors que Chloé Chevalier tarde à la lâcher cette dernière balle. Voilà qui est fait. Elle perd du temps là aussi. Chloé, elle a 2 erreurs, 2 balles de pioche à mettre. Pour essayer de rester au contact des meilleurs dans ce relais. Attention à ne pas laisser filer l'Italie, parce que Vitozzi derrière, c'est très fort, c'est très très fort. L'Allemagne est repartie également. La République tchèque va aller tourner sur la note pénalité. 2 erreurs pour Elvira Öberg pour la Suède. Elle est plantée, Chloé Chevalier, sur ce pâtir là. C'est dur, c'est très dur les conditions. Elle a mis la balle de pioche. Allez, il faut mettre la deuxième, parce que derrière Elvira Öberg, eh bien, a blanchi toutes ses cibles et repart. La Norvège également est pas loin de repartir, et Chloé est complètement bloquée. Ça lui arrive, hein, sur ce tir debout, mais elle va limiter les dégâts puisqu'elle n'ira pas tourner sur la note pénalité. Elle est repartie, enfin, on a envie de dire, Chloé Chevalier, après ce tir debout. Eh bien, ça va faire des dégâts tout de même, hein, puisque l'Italienne Ojentaler est en tête devant l'Allemande, 16 secondes. La Française, Chloé Chevalier, est ressortie 5e à 51 secondes de la tête de course. On va dire que rien n'est fait, mais ça se complique quand même sérieusement cette histoire pour le titre mondial, avec Julia Simon derrière en dernier relais.
Et Julia Simon va nous faire un relais extraordinaire. Elle va voler sur les skis et elle va mitrailler les cibles de ce pas de tir de Oberhof. Merci Julia. On te retrouve dans quelques instants pour la suite et la fin de ce biathlon, la deuxième mi-temps également de Bayonne Stade Français et la deuxième mi-temps de Bordeaux Paris Football Club. Tout ça avec Pierre Abadan, avec Morgane Maury, avec Julien Richard et François Pinet en maître d'orchestre, en chef d'orchestre. Il arrive dans un instant. Bonne fin d'après-midi. Romain Asselin également à Bordeaux. À bientôt.
RMC Intégral Sport.